Commencer par l'appel. Donc Sébastien Frey, présent. Ève Escande.
Présente.
Jérôme Bonafou va nous rejoindre. Sylviane Perret.
Présente.
Thierry Villa.
Présent.
Martine Vibarel.
Présent.
Guylain Toureau.
Présent.
Christine Antoine.
Présent.
Robert Crabat. Clémence Raffanel. Louis Bentajou.
Oui,
Chantal Guillou.
Présent.
Christiane Deveau.
Présent.
Jean-Louis Abadi.
Présent.
Marie-Hélène Mathia.
Présent.
Christiane Motte.
Présent.
Véronique Ray.
Présent.
Michel Tardy.
Présent.
Véronique Salgas.
Présent.
Va arriver. Hop, j'ai coché trop vite. Thierry Dominguez. Rémi Glomo. Stéphane Hugonnet.
Présent.
Marion Maerten.
Présent.
François Perea.
Présent.
Sylvian Vial.
Présent.
Laurence Mabelli. Absente. Donne pouvoir à Madame Mathia. Madame Moreno est absente. Madame Dita Guillem.
Présent.
Alain Ivars.
Présent.
Marie-Josée Auger-Comon.
Présent.
Patrick Dumont. Thierry Nadal,
présent.
André Figueras,
présent.
Nadia Cantanzano,
présent.
Et Fabienne Varezano.
Présent.
Véronique Salgas est parmi nous. Je la note donc présente. Et il reste Jérôme Bonafou qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Alors, il me faut tout d'abord vous demander de bien vouloir approuver le procès-verbal du conseil municipal qui s'était tenu ici même le 22 mai 2025. Y a-t-il des remarques? Non, je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vous propose de désigner en tant que secrétaire de séance Madame Escande. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Madame Escande, vous êtes la secrétaire de cette séance. Plusieurs questions orales m'ont été adressées. Je vais laisser le soin à ceux qui en sont les auteurs d'en faire la lecture et j'y répondrai bien évidemment immédiatement après. Je vais laisser la parole pour commencer à Monsieur Nadal.
Monsieur le maire, lors du dernier conseil d'agglomération, le 30 juin dernier, vous avez confirmé le retrait du département sur une partie du financement du projet de la gare d'Agde, en invoquant ses difficultés budgétaires, des difficultés bien réelles dont on mesure déjà les conséquences à Agde, par exemple les travaux de la criée à l'arrêt depuis plusieurs mois. Et je ne vous parle même pas du doublement de la voie rapide à plus de 150 millions d'euros qui revient à chaque veille d'élection et que vous allez certainement nous resservir, repose lui aussi essentiellement sur les financements hypothétiques du département. Et pourtant, quelques semaines plus tôt, lors des comités de quartier de mai et juin, vous avez affirmé à plusieurs reprises que la future passerelle sur l'Hérault, estimée à plus de 7 millions d'euros, serait financée à hauteur de 3,5 millions par ce même département. Alors je vous pose la question que beaucoup d'Agatois se posent aujourd'hui. Comment expliquer une telle contradiction? Comment d'un côté le département n'aurait-il plus les moyens de financer des projets déjà engagés? Et de l'autre, comment pourrait-il s'engager sur un nouveau financement massif, non encore acté, pour une passerelle encore très contestée? S'agit-il d'un engagement formel du département? Existe-t-il une délibération, une convention, un vote? Ou bien s'agit-il une fois encore d'une annonce prématurée destiné à faire passer un projet dont le financement réel est tout sauf assuré. Parce que dans les faits, monsieur le maire, vous nous dites que la passerelle est déjà en cours de construction. Et les Agatois ont le droit de savoir si les 3,5 millions d'euros du département existent réellement ou si vous lancez des travaux sur la base d'espoir, de promesses ou pire, de simples effets d'annonce. Alors soyons clairs, qui paiera si ces subventions pour cette passerelle n'arrivent pas? Est-ce encore les contribuables agatois? Devons-nous engager des millions d'euros sans garantie solide? Et surtout, à quoi bon construire une passerelle si les services de base et les priorités quotidiennes des habitants, comme la voirie, sont sacrifiés? Monsieur le maire, la crédibilité de l'action municipale est en jeu et les agatois n'accepteront pas de payer l'addition pour des projets mal ficelés.
Monsieur le conseiller municipal, je vais vous dire qu'il n'y a absolument aucune contradiction dans les propos que j'ai tenus, ici et ailleurs. Vous n'avez tout simplement pas compris ce qu'à plusieurs reprises j'ai tenté d'expliquer, de vous expliquer. Vous dites que la construction de la passerelle qui fera le lien entre le cœur de ville d'Agde et le château Laurent, qui d'ailleurs est un projet qui a été approuvé par les agatois à l'occasion de la dernière élection municipale et qui n'est contesté que par l'opposition, coûtera à la ville d'Agde 7 millions d'euros. Je vous réexplique, monsieur le conseiller municipal, que cela ne sera pas le cas, puisque la TVA, d'une part, 1 million d'euros, un peu plus même, est récupérée par la collectivité et que ce projet est soutenu et cofinancé par nos partenaires institutionnels. Le reste à charge de la ville d'Agde sera de 3,5 millions d'euros. Financé, qui plus est, dans le cadre de deux exercices budgétaires. J'ai l'impression, qui est un peu gênante, je tiens à le souligner, que vous êtes heureux de voir le département de l'Hérault en proie à des difficultés budgétaires, considérant peut-être que par voie de conséquence, les projets portés par la ville d'Agde pourraient être contrariés. Vous dites que le département de l'Hérault est engagé à hauteur de 3,5 millions d'euros. Mais vous vous trompez, monsieur le conseiller municipal. Jamais cela n'a été dit. Dans le cadre du plan de financement relatif à la création de la passerelle, le département de l'Hérault est engagé pour sa part à hauteur de 10% du montant de l'opération. Par ailleurs, vous insinuez, toujours s'agissant du département de l'Hérault, que les travaux d'aménagement de la criée du Gros d'Agde sont arrêtés pour des raisons financières. Vous venez de le dire. C'est, encore une fois, faux. J'étais la semaine dernière avec la chargée de projet du département de l'Hérault, qui m'a confirmé que le chantier sera livré au plus tard à l'automne de cette année. Les retards sont dus à des raisons techniques, l'émergence d'une nappe d'eau affleurante a décalé l'intervention de certaines entreprises. Tous les crédits sont inscrits au budget 2025 du département et seront consommés comme il était prévu qu'ils le soient. Enfin, s'agissant du projet de doublement de la route départementale 612, vous serez invité, monsieur le conseiller municipal, par le président du conseil départemental de l'Hérault, à la phase de concertation publique organisée par l'exécutif départemental dans le courant du mois de novembre de cette année. Je vous remercie. Je vais passer la parole à madame Catanzano.
Bonjour. Monsieur le maire, je note une inquiétude croissante face à la gestion municipale des épisodes de canicule qui se multiplient et s'intensifient d'année en année. Nos concitoyens en souffrent et beaucoup soulignent le manque de notre commune d'îlots de fraîcheur, de végétalisation, de fontaines à l'arrêt au profit d'une bétonisation intensive. La canicule s'est installée durablement en cette fin d'année scolaire et la plupart des écoles de notre commune ne sont toujours pas prêtes à y faire face. J'ai récemment fait un bilan dans plusieurs écoles de notre commune et le constat est alarmant. Des températures dépassant souvent les 35 degrés dans des salles de classe sans aucun dispositif de climatisation ni même parfois de ventilation efficace. Dans ma propre école, cela fait plusieurs années que nous demandons l'installation d'un point d'eau dans la cour pour améliorer les conditions de vie des élèves et du personnel, sans réponse à ce jour. Les conséquences sont visibles. Enfants épuisés, malaise fréquent, personnel en difficulté, incapacité à enseigner et à apprendre dans des conditions décentes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une pétition, déjà signée par de nombreux parents d'élèves, circule sur l'ensemble des réseaux. Elle témoigne du ras-le-bol général et de l'attente forte d'actions concrètes de la municipalité. Monsieur le maire, il devient indispensable d'anticiper plutôt que de subir. Il est de notre devoir collectif de protéger nos concitoyens, en particulier les plus fragiles, face à ces épisodes climatiques extrêmes qui ne feront que se répéter. C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le maire, qu'attendez-vous pour mettre en place des mesures pérennes dans toutes nos écoles, mais aussi au centre de loisirs Saint-Martin, afin de garantir les conditions d'accueil que nos enfants méritent.
Merci, Madame la conseillère municipale. Nous n'avons pas attendu. Une vague de chaleur a en effet été constatée en France entre le 19 juin et le 4 juillet. Il s'agit d'un phénomène courant qui a été enregistré à 50 reprises depuis 1947, mais qui a surpris, cela est vrai, vous avez raison de le signaler, cette année par sa précocité. De l'avis des experts, il est extrêmement rare qu'une vague de chaleur soit constatée au mois de juin, et jusqu'alors deux seuls cas avaient été enregistrés en 2005 et en 2017. Toutefois, il est probable, et je vous rejoins, que la fréquence de telles vagues de chaleur précoces augmente. Madame la conseillère municipale, vous dites ignorer que la Vidagde a anticipé. La Vidagde s'y prépare déjà, en conduisant depuis plusieurs années, sous l'impulsion de Madame Vibarel-Caro, un programme important de travaux de modernisation de nos écoles, qui comprend notamment un volet relatif à l'isolation des bâtiments et à l'amélioration de la performance thermique. Plusieurs écoles ont d'ores et déjà fait l'objet de travaux qui procurent un plus grand confort tant en période de vague de chaleur qu'en période de froid. L'école Jules Ferry, l'école Marie Curie, l'école Anatole France, située en cœur de ville d'Agde, ont été concernées, ainsi que l'école élémentaire Victor Hugo, située au Gros d'Agde. L'enveloppe financière consacrée s'élève à hauteur de 800 000 euros par école. Ce travail doit être poursuivi, ce sera le cas. Les travaux viennent d'être engagés à l'école maternelle Victor Hugo et suivront en 2026 le chantier concernant l'école Frédéric Basile pour un montant de 2 millions d'euros. Je veux aussi préciser que les travaux auxquels je fais référence ne se limitent pas à l'isolation des bâtiments, mais intègrent également la désimperméabilisation des cours d'école et la création d'îlots de fraîcheur. Ont déjà bénéficié de ces travaux l'école élémentaire Jules Verne, l'école maternelle Albert Camus, l'école élémentaire Albert Camus, l'école maternelle Jean Moulin, je vous le rappelle, l'école maternelle Marie Curie, l'enveloppe financière consacrée s'élève à hauteur de 300 000 euros par cours d'école. S'agissant des services hospitaliers ou des établissements publics et privés où résident nos aînés, qui sont eux aussi sensibles aux fortes chaleurs, je veux vous indiquer, Madame la conseillère municipale, sans que vous ayez questionné à ce propos, mais pour votre information, avoir pris contact avec leurs directeurs respectifs afin de m'assurer que la situation était parfaitement maîtrisée. Sylviane Perret, mon adjointe, effectue le suivi. Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant à M. Figueras.
Merci, M. le maire. Je vous ai demandé, M. le maire, à plusieurs reprises de nous fournir le rapport sur la remunicipalisation des ports, établi il y a déjà plusieurs mois maintenant, par un cabinet externe et indépendant, et surtout payé par la ville, donc par les Agatois. Mais vous avez toujours refusé de nous fournir ce rapport. Au-delà du fait que c'est juste inacceptable que les élus que nous sommes, et plus largement les Agatois, soient traités avec autant de mépris et ne puissent avoir accès à ces documents alors que rien ne le justifie, vous persistez dans votre gestion des dossiers à cacher les choses. Nous sommes aujourd'hui le 15 juillet et la remunicipalisation est effective depuis un mois et demi. Mais toujours pas de rapport à l'horizon. Pourtant, il y a 3 mois ici même, vous m'avez dit, je vous cite, « Vous les aurez une fois la remunicipalisation en place ». Alors, monsieur le maire, encore une promesse non tenue.
Monsieur le conseiller municipal, il n'y a de la part de personne ici quelque forme de mépris que ce soit pour le conseiller municipal d'opposition que vous êtes. Mais il me faut visiblement vous rappeler que je suis en charge de l'exécutif de notre collectivité et que vous ne l'êtes pas. Je suis en charge de la préparation des décisions, puis de leur mise en œuvre, et vous êtes appelé, en tant que conseiller municipal, à donner un avis au moment de la délibération de l'Assemblée municipale. Cela se passe ainsi dans tous les conseils municipaux de France. Vous demandez que vous soient communiqués des documents de travail. Je vous ai déjà répondu que ceux-ci vous seront transmis, comme la loi le prévoit, dès lors que la procédure relative à la reprise de l'activité d'exploitation des ports et à la dissolution de la Sodéal sera achevée. Je fais référence au Code des relations entre le public et l'administration qui stipule que le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Dumont.
Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal, je vous ai posé deux questions relatives à la ligne LGV pour Agde et en général et pour l'activité touristique en particulier. Vous nous avez informé de votre réunion avec Madame la Présidente de la région Occitanie, de Monsieur le Préfet de région ainsi que des dirigeants de la SNCF et vous avez précisé qu'ils sont, je vous cite, à votre écoute. Dois-je rappeler que les TGV ne s'arrêteront pas ou peu à Agde, sachant que les gares desservies par la ligne grande vitesse seront Montpellier et au mieux Béziers, si ce n'est Narbonne. Dois-je rappeler que les gares TGV n'accueilleront pas les TER obligeant les voyageurs à changer de gare pour prendre une correspondance vers Agde. Dois-je rappeler que ce dossier date des années 70, au début de votre activité politique, et que vous avez eu donc tout le temps d'imaginer et de mettre en œuvre les solutions. Au-delà d'une écoute diplomatique de la région, de l'État et de la SNCF, quels sont concrètement vos engagements spécifiques en termes de fréquence de train, de services pour Agde en général, et en particulier pour l'activité touristique et les Agatois qui se déplacent journalièrement pour leur activité professionnelle?
Il manque une phrase.
90. 90. Ah, je vous prie de m'excuser.
Non, mais 90, 90, c'était l'année où je passais le bac.
Ouais. Ouais. Mais c'est à peu de temps. Vous étiez aussi en politique à ce moment-là. Et nous étions. Ouais. Nous avons travaillé ensemble.
Vous ne me rajeunissez pas, vous n'êtes pas très gentil avec moi.
Donc aujourd'hui, j'aimerais bien avoir des réponses plus précises que les réponses des dernières fois.
Merci, monsieur le conseiller municipal, cher monsieur Dumont. J'étais avec le directeur de la société Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, avec le vice-président de la région chargé des transports représentant la présidente de région Occitanie, le préfet de département et le préfet de région, ce vendredi, vendredi après-midi, à 16h45. Dois-je vous rappeler, monsieur le conseiller municipal, que le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan n'est pas une substitution de ligne, mais un doublé de ligne. La ligne actuelle ne va pas être supprimée et remplacée par la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, elle sera doublée. En outre, je vous informe, dans le cadre de la réponse que je dois apporter à votre question, que nous discutons actuellement, dans le cadre d'une écoute réciproque, comme vous l'avez rappelé, de l'intérêt qu'il y a pour notre territoire, en particulier pour notre commune d'Agde, et qui est grand à mes yeux, que SNCF Réseau réalise des travaux devant permettre d'allonger la durée de vie et d'exploitation de la ligne actuelle. Nous savons que celle-ci sera malheureusement soumise dans les prochaines décennies à un risque accru de submersion. Il est donc nécessaire, et nous en convenons tous, que des aménagements soient prévus et réalisés afin de la sécuriser. La desserte de notre territoire ne sera donc pas dégradée, comme vous le dites. Au contraire, elle sera améliorée, tant sur le plan de notre attractivité touristique, portée par une politique d'offre de quatre saisons, que sur le plan des mobilités du quotidien qui concernent les déplacements domicile-travail auxquels vous avez fait référence. Enfin, je ferai remarquer que les partenaires que j'ai nommés sont tous engagés aux côtés de la ville d'Agde et de la communauté d'agglomération Héro-Méditerranée que je préside, afin de lancer ensemble, dans quelques semaines, le très important chantier de modernisation de la gare d'Agde et de sa transformation en pôle d'échange multimodal. C'est l'affirmation d'une volonté commune de tous les partenaires de rendre plus accessible notre territoire qui est tout à la fois un bassin de vie dynamique et une destination touristique leader en France et en Europe. Je vous remercie. Je laisse enfin la parole à Madame Varesano.
Bonsoir Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Monsieur le maire, à plusieurs reprises ces dernières semaines, je vous ai adressé des courriels afin d'obtenir des éléments d'information indispensables à l'exercice de mes fonctions d'élu municipal. Parmi ces demandes restées sans réponse figure notamment l'organigramme actualisé de la Régie des ports, accompagné des salaires correspondants, la transmission du rapport de la société Espelia relatif à la remunicipalisation de la Sodéal, et plus récemment, une série de questions précises sur la gestion du parc automobile municipal, sujet sur lequel je souhaite revenir ce soir publiquement. Vous avez donc eu connaissance des questions à venir bien au-delà du délai des 72 heures. Dans un souci de transparence, de rigueur budgétaire et de protection de l'intérêt général, plusieurs faits m'amènent à vous demander des éclaircissements sur ce sujet. Parmi ces faits, un véhicule floqué Ville d'Agde a été utilisé un dimanche soir pour un trajet Blablacar Toulouse-Agde avec en son bord un passager sans lien avec la commune. Un conducteur a été verbalisé en Espagne avec un véhicule de l'agglomération sans mission professionnelle connue. Il est rapporté que la totalité des réparations des véhicules municipaux serait confiée à un garage appartenant à un élu de votre majorité. Et enfin, des véhicules agglomération seraient aujourd'hui équipés d'options coûteuses auxquelles nombre d'agatois renoncent faute de moyens. Cela me semble soulever des questions sur la sobriété des choix opérés. Ces éléments interrogent profondément sur les critères d'attribution, d'usage, de contrôle et de gestion des véhicules publics qu'ils relèvent de la ville ou de l'agglomération. Plusieurs aspects essentiels sont concernés. Tout d'abord, le fonctionnement du parc automobile municipal et de l'agglomération avec des interrogations sur un inventaire détaillé du nombre de véhicules, précisant pour chaque véhicule la marque, le modèle, l'année de mise en circulation, le kilométrage actuel ainsi que son affectation ou son usage principal. La valeur estimée de cette flotte et le coût global de son fonctionnement, les modalités d'attribution aux agents, les conditions d'octroi du remisage à domicile, la possibilité pour certains d'utiliser des véhicules municipaux le soir ou le week-end à titre personnel. Les utilisateurs sont-ils sensibilisés au respect du code de la route, du stationnement et aux soins du véhicule? Et un état des lieux est-il systématiquement réalisé avant et après attribution du véhicule? Concernant le suivi et l'utilisation des véhicules, je vous ai interrogé sur la modalité de contrôle mise en place via les systèmes de géolocalisation, la fréquence des vérifications effectuées, l'éventuelle existence de véhicules exonérés de géolocalisation, en demandant dans ce cas-là quels sont les critères retenus, et quel est le coût de la géolocalisation par collectivité et quel est son intérêt s'il n'y a pas de sanctions. Je vous ai également questionné sur les cartes de carburant en vous demandant qui en sont les détenteurs, les dispositifs de contrôle associés, le coût global des carburants ces trois dernières années, ainsi que le détail des consommations par carte, y compris des cartes dites hors parc, si elles existent. Ensuite, concernant la sélection des prestataires en charge de l'entretien et des réparations, je souhaite savoir selon quelle procédure ces prestataires sont choisis, procédure de marché public, consultation, accord cadre, si plusieurs devis sont systématiquement demandés pour les interventions au-delà de 1 000 euros. J'ai également demandé la copie des devis, bons de commande et factures relatifs aux réparations sur les trois dernières années. Concernant le parc automobile du maire, je vous ai demandé le coût annuel complet du véhicule ou des véhicules, entretien, carburant, les missions exactes confiées à son chauffeur et son coût, véhicule, carburant, salaire, charge, si ce chauffeur accomplit d'autres missions pour la collectivité et s'il est mobilisé quotidiennement ou en fonction des besoins, et si cette organisation est réellement adaptée aux besoins d'une commune de 30 000 habitants, si elle est réellement utile. Un autre fonctionnaire disponible dans les services en fonction des jours ne pourrait-il pas remplir ce rôle plutôt qu'un seul affecté uniquement à cet usage? Je précise que ma démarche ne vise en aucun cas à jeter le discrédit sur l'ensemble des agents, dont je sais que la grande majorité exerce ses missions avec sérieux, loyauté et un grand sens du service public. Mais c'est justement pour préserver cet équilibre, éviter les dérives individuelles et garantir l'exemplarité de tous que je vous pose ces questions. Il en va du respect de la collectivité et surtout de la confiance que les agatois doivent pouvoir accorder à la gestion de leurs impôts. Ayant eu connaissance de toutes ces questions, monsieur le maire, depuis 2 semaines, je considère que le délai est suffisant pour rassembler les éléments nécessaires. Je vous remercie donc de bien vouloir me répondre ce soir en séance et de me communiquer les éléments demandés, car trop souvent, vos engagements à me répondre ultérieurement restent sans suite. Je vous remercie.
Madame la conseillère municipale, votre intervention est très intéressante. Mais considérez avec moi qu'il s'agit de 26 questions qui sont toutes d'ordre strictement technique ou administratif. Je demande donc à monsieur le directeur général des services de la ville d'Agde de vous recevoir afin de vous apporter les très nombreux éléments d'information que vous sollicitez. Je suis en mesure de vous indiquer que la gestion du parc automobile municipal, qui faisait partie intégrante de la délégation que j'ai donnée à Louis Bentajou, se conforme en tout point à la réglementation en vigueur. Enfin, je vous renvoie, comme je pourrais le faire pour n'importe lequel des membres de cette assemblée municipale, pour partie des réponses que vous attendez, au règlement d'utilisation et de maintenance des véhicules municipaux qui a été proposé à ma demande le 19 septembre de l'année dernière et approuvé par nous tous à l'unanimité. Je vous remercie.
C'est pas le règlement, monsieur Frey, dont je veux avoir connaissance, et s'il est appliqué. Voilà, donc avec plaisir,
monsieur
pour le rendez-vous.
Yvain vous recevra.
Très bien.
Avec plaisir.
Je vous remercie.
Merci, madame la conseillère municipale. Alors, il nous faut, avant que d'aborder la première question inscrite à l'ordre du jour de ce conseil municipal, il me faut vous proposer l'inscription en questions diverses de 2 points. 2 délibérations qui ont dû être posées sur votre pupitre. La première concernant la nomination d'un directeur par intérim de la Régie des Ports, qui reprend les termes de la délibération que nous avons examinée la fois précédente, mais qui les précise et qui sécurisera juridiquement le montage. Deuxièmement, la convention d'objectifs pour l'association des professionnels du nautisme et l'attribution de la subvention pour l'organisation du Salon Nautique 2025. Voilà donc 2 points qui seront rajoutés en questions diverses à votre examen. Première question inscrite à l'ordre du jour. La délibération donc intitulée « Maintien ou cessation de la fonction d'adjoint de M. Louis Bentajou ». Considérant la dissolution du lien de confiance entre M. Bentajou, qui était 10e adjoint, et moi-même, et dans un souci de bonne marche de l'administration communale et de la municipalité que je préside, j'ai décidé de rapporter toutes les délégations que j'avais initialement confiées à M. Bentajou. Donc, il va nous falloir délibérer. Je précise que ceci vient à la suite de la décision donc prise par arrêté de ma part concernant le retrait des délégations. Et maintenant, il faut, au niveau du conseil municipal, délibérer concernant la cessation de la fonction d'adjoint. Cessation ou maintien, tout à fait, je l'ai précisé en présentant le libellé de cette délibération. Il nous faudra nous exprimer soit à main levée, si tout le monde en est d'accord, soit, si l'un d'entre vous le souhaite, à butin secret. Donc c'est le premier point de la procédure sur lequel nous devons nous prononcer. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite que le vote ait lieu à bulletin secret ? Monsieur Bentajou, très bien, c'est tout à fait votre droit. Donc, nous procéderons par vote à bulletin secret. Donc, y a-t-il, avant que nous ne passions aux voix, y a-t-il des demandes de prise de parole ? Louis Bentajou.
Allez, c'est parti. Monsieur le maire par intérim, messieurs et mesdames les conseillers municipaux, cette décision qui porte sur le retrait de ma délégation proposé par M. Frey, maire actuel, m'a poussé à saisir la juridiction compétente, c'est-à-dire le tribunal administratif, pour contester la légalité de cet arrêté. Décision arbitraire qui n'a rien à voir avec le lien de confiance entre moi et la municipalité, pas plus qu'elle n'interfère dans la bonne marche de l'administration. M. Frey le reconnaît lui-même, je le cite, « Cette décision n'entrave rien l'estime personnelle que je lui porte, et je tiens à saluer ici son engagement au profit des Agatois. » Cette prise de position nous dévoile enfin la vraie personnalité de M. Frey, qui, soit dit en passant, n'habite même pas Agde, et dont les ambitions politiques laissent peu de place à l'intérêt qu'il porte aux Agatois. Je ressens cette sanction, comme une insulte à mon honneur, insulte qui retombe sur tous les Agatois qui m'ont fait confiance et qui continuent à me le faire, si j'en juge par les nombreuses marques de sympathie que je reçois. Cette fin de mandat m'aura au moins appris que l'amitié est incompatible avec la politique, les prétentions et les ambitions de certains. Je demande au conseil municipal de se prononcer par le biais d'un scrutin secret, en rappelant que je ne demande pas par ce vote de sanctionner le maire actuel, les accatoires s'en changeront aux prochaines élections, mais de me sanctionner si vous jugez que mon implication pour ma ville aura été négative. Je terminerai en disant que pour moi, avoir servi ma ville pendant 17 ans aura été un honneur et un bonheur.
Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Non ? Alors, je vais mettre aux voix. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un jugement de l'action. Je précise qu'il s'agit d'une clarification qu'il convenait d'opérer. Louis Bentajou n'a pas souhaité l'opérer de son propre chef. Il m'est donc revenu de le faire en ma qualité de maire et de président de cet exécutif. Donc, je vous propose de vous saisir des bulletins qui sont à votre disposition. Donc, nous allons nous prononcer... Ah oui, pardon, excusez-moi. Il nous faut en effet nommer deux assesseurs. Un de la majorité, un de l'opposition serait pour le mieux. Donc, parmi l'opposition, qui souhaitez-vous désigner ? Allez, Madame Auger-Comment, vous avez été désignée. Et dans la majorité, on va désigner... allez. Ah, François Perret a envie. Je l'ai vu dans ses yeux. Alors, il nous faut nous prononcer sur le maintien ou la cessation de la fonction. Je propose donc, vous l'aurez compris, que nous procédions à la cessation de la fonction d'adjoint au maire qu'occupait Louis Bentajou. S'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Attendez, avant d'écrire, je vous propose, pour qu'on soit tous bien d'accord, je propose la cessation de la fonction. Donc je vous propose, je vous suggère de vous prononcer par oui ou par non. Je propose la cessation de la fonction. Soit vous êtes d'accord avec le principe de la cessation, vous écrivez oui, soit vous vous y opposez, vous écrivez non. Voilà, je pense que c'est le plus clair que l'on puisse faire. Bon, cessation, c'est oui. Si vous ne le souhaitez pas, évidemment, vous indiquez non sur le bulletin. Je rappelle que Madame Mathia a un pouvoir. Voilà, c'est ça. Elle ne l'avait pas oublié. Alors, tout le monde a voté. Je vais demander à Madame Auger-Comment et à Monsieur Perret de bien vouloir, dans un premier temps, recompter les bulletins. S'il vous plaît. 4, c'est bien ça. Allez, je vous demande d'annoncer.
Non.
7 et normalement 27.
27 et
7. Oui. Alors, le scrutin donc est clos. 7. Non, et 27, oui. Madame Augé-Comont, Monsieur Perra, merci. Je vais vous demander de bien vouloir retourner à vos sièges. Donc, voici pour la question 1. Question 2, nous allons devoir voter également à main levée. Il s'agit de l'élection d'un nouvel adjoint, donc dans la suite de la délibération qui vient d'être approuvé par le conseil municipal. Alors, le poste d'adjoint étant à pourvoir, je propose de procéder à l'élection du 10e adjoint au maire et je présente la candidature de Rémi Glomeau, donc qui aujourd'hui est en charge de la délégation de l'urbanisme et qui conserverait, dans le cas où il serait élu adjoint au maire, sa délégation à l'urbanisme. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Nous allons donc devoir procéder par un scrutin à bulletin secret. Mais du coup, je vous ai renvoyé vers vos sièges. Encore que non, je vais pas solliciter François Perrea pour la délibération qui suivra. Est-ce que Madame Augé-Comont, vous accepteriez d'être assesseur une fois encore? Peut-être, allez, Madame Guillou, vous qui êtes sur, voilà, à proximité, s'il vous plaît. Donc, je propose la candidature de Rémi Glomeau. Oui, vous mettez le nom de Rémi Glomeau, s'il vous plaît. Ou pas. Non, il n'y a pas d'autres candidatures, j'ai demandé. 34 bulletins. Je vous remercie de bien vouloir procéder au dépouillement. Rémi, il n'y en a qu'un, ici. Oui. Un nul. Bon, ça fait 7, ça fait 27 et 7. Ok, donc monsieur Glomo, vous êtes élu adjoint au maire et vous aurez donc la délégation de l'urbanisme. Je vous félicite. La question suivante appelle l'élection d'un deuxième adjoint de quartier. Nous avons la possibilité de procéder à l'élection de plusieurs adjoints de quartier eu égard à notre strate de population et à l'installation de comités ou de conseils de quartier existants à Hague depuis 2003. Je propose pour occuper ce poste de deuxième adjoint de quartier la candidature de François Perea. Y a-t-il d'autres candidatures ? Je n'en vois pas. Donc je vous demande de bien vouloir vous saisir du dernier bulletin qui est en votre possession, donc, et d'y mentionner le nom de François Perea ou non. Chantal Guillou est d'accord pour revenir, Madame Auger-Comont, s'il vous plaît. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un veut bien nous faire voter ? Merci Hélène. Hop. Merci. 34 bulletins. Merci. Très bien. Donc, 28 bulletins pour la candidature de François Perréa, 6 bulletins blancs ou nuls. François Perréa est élu adjoint au maire. Félicitations. Merci, Madame Guillou. Merci, Madame Auger-Comont. Je vais demander, s'ils le veulent bien, et ils le voudront, à Rémi Glomot et à François Perréa de bien vouloir venir au centre de l'Assemblée, afin que je leur remette l'écharpe tricolore. Des adjoints expérimentés et bienveillants me demandent de vous indiquer, jeunes adjoints, que vous pourrez désormais procéder au mariage le samedi. Voilà. Allez, question 4. Il nous faut déterminer et élire les membres de la commission d'appel d'offres suite au remplacement de Monsieur Bentajou. Donc, M. Bentajou était membre de la commission d'appel d'offres. Je propose de le remplacer par M. Vial, si vous en êtes d'accord. Si vous ne souhaitez pas modifier la représentation qui est celle de l'opposition, on peut procéder de la manière la plus simple et la plus rapide, à main levée, sauf si quelqu'un souhaite procéder par bulletin secret. Tout le monde est OK pour qu'on vote à main levée ? Voilà. Et vous, donc, conservez la représentation qui est la vôtre. Je rappelle, serait membre titulaire si nous en sommes d'accord. Monsieur Krabat, Madame Motte, Monsieur Vial et Madame Merten. Et pour l'opposition, Monsieur Figueras sont suppléants. Madame Escande, Monsieur Dominguez, Monsieur Glomo, Madame Antoine. Et pour l'opposition, Monsieur Dumont. Je mets donc aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Pardon, excuse-moi, je n'avais pas vu, Louis. Merci. Donc, approuvé à la majorité. Question 5. Il s'agit de l'élection des membres de la commission de concession sans service public suite au remplacement de M. Bentajou. La commission était composée exactement de la même manière. Donc, je vous propose... Pour l'opposition, c'était différent. C'était M. Dumont qui était titulaire et M. Nada qui était suppléant. Si vous souhaitez conserver cet ordre, je vous propose que l'on procède de la même manière, sauf si quelqu'un souhaite que nous votions à bulletin secret. Non? Donc, à main levée, merci. Y a-t-il des votes contre? Madame Barrezano? Y a-t-il des abstentions? OK. Oui, j'ai dit c'est la même composition, donc c'est la candidature. D'accord, OK. Deux abstentions, alors. Madame, vous avez voté contre, excusez-moi. Contre et une abstention. OK, c'est approuvé, je vous remercie. Question 6, élection des membres de la commission de concession de services publics suite au remplacement de M. Bentajou, qu'il convient de remplacer donc au sein de la dite commission. Alors, je vous propose la candidature de M. Vial pour remplacer M. Bentajou, son membre titulaire au titre de la majorité, M. Krabat, Mme Motte, Mme Merten, suppléant Mme Escande, M. Dominguez, M. Glomo, Mme Antoine, donc conformément aux deux commissions précédentes. Pour l'opposition, le titulaire est M. Dumont et le suppléant, M. Nadal. Y a-t-il de demande de modification? Non. Y a-t-il un conseiller qui souhaite que nous procédions par un vote à bulletin secret? Non. Je mets donc aux voix. Y a-t-il des votes contre? Madame Varezano, des abstentions? Monsieur Bentajou. Donc la délibération est approuvée à la majorité. Je vous remercie. Question 7. Détermination des indemnités des élus. Considérant que le conseil municipal de la ville d'Aide comporte 10 adjoints et désormais 2 adjoints de quartier, il convient de fixer les indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal selon les modalités suivantes qui vous sont indiquées. Je précise immédiatement, avant que la question ne me soit peut-être posée, que l'enveloppe reste identique. Cela a certainement été précisé en commission, j'imagine. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Bentajou. Attends, mets le micro, Louis, s'il te plaît. Mets le micro.
Je souhaiterais, plutôt que d'avoir écrit des pourcentages, qu'il y ait des euros.
Ah. Eh ben. Ben, tu sais combien tu touchais en tant qu'adjoint, donc ça n'a pas bougé. Tu peux le dire.
En tant qu'adjoint, je touchais 1 400 euros, pardon.
1 400 euros, ben voilà, c'est exactement la même chose. Donc, et l'indemnité des adjoints est la plus importante, puisque même l'indemnité de maire est inférieure, étant donné que je perçois des indemnités par ailleurs.
Est inférieure parce que tu es...
Parce que je perçois des indemnités par ailleurs. Voilà.
Tu ne vas pas nous faire pleurer. Hein.
Non, je ne fais pleurer à personne. Loin de moi cette intention. Y a-t-il d'autres questions? Madame Varezano.
Oui, non, je rejoins un petit peu Monsieur Bentajou. En effet, il est plus parlant d'avoir des montants en euros que des pourcentages. C'est vrai que là, ça ne nous parle absolument pas. Et il aurait été... Vous n'avez pas...
On se réfère au projet de délibération...
Oui, j'entends que ça n'a pas augmenté, mais c'est
non,
plus parlant pour
nous. Non, ce
n'est
pas ce que je voulais dire. Mmh. C'est qu'il nous est demandé de présenter la délibération dans ces termes-là. Voilà. C'est en rapport à un indice de référence, puisque ce n'est pas de la liberté de l'Assemblée municipale de fixer...
J'ai compris. Voilà. Peut-être avez-vous malgré tout connaissance ou quelqu'un derrière peut nous communiquer ces montants.
Voilà, mais en tout cas...
Puisqu'on est plusieurs à se poser la question.
Je comprends que ce n'est pas très parlant, vous avez raison.
Ouais, merci.
29,30% pour les adjoints, donc ça correspond à 1 400 euros. Donc, il y a d'autres délibérations, pourcentages d'indices bruts. Donc, pour le maire, 25%. Donc, ça doit faire 1 200 euros à peu près. Enfin, vous faites Voilà, j'ai pas la conversion, mais en tout cas la base est celle-là, 1400 euros pour 29%, qui est la plus importante des indemnités versées au conseil municipal, au sein de ce conseil municipal. Et l'enveloppe reste inchangée. Y a-t-il d'autres questions ? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? D'accord. Des abstentions ? Monsieur Bentajou ?
Non.
Non. Très bien. Donc, adopté à la majorité. Je vous remercie. Question 8, qui est afférente à cette même délibération. La commune d'Agde a le chef-lieu de canton et la commune d'Agde est également classée station de tourisme. Par conséquent, les indemnités sont, par l'application des règles, majorées. Donc, vous avez là le montant des indemnités, enfin les taux de majoration. Et quand on dit 1400 euros, ça comprend ces majorations. Puisque si, donc ça fait 15 et 25%. Voilà, une indemnité non majorée d'un adjoint au maire ici à Hyde, ça doit être entre 900 et 1000 euros. Quand elle est majorée, elle est portée à 1400. Elle est majorée, non pas de notre volonté, mais du fait que la ville est classée station de tourisme et chef-lieu de canton. Cela appelle-t-il des remarques ou des questions ? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Donc, si vote contre, la délibération est approuvée à la majorité. Je vous remercie. Nous passons maintenant aux délibérations relatives aux finances de la commune. Le rapport 9 est relatif à l'affectation du résultat 2024 du budget principal et des budgets annexes. Je donne la parole à Madame Raffanel.
Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, un petit rappel de la méthodologie pour l'affectation du résultat. En fait, le résultat de fonctionnement, il va servir à combler le besoin de financement de la section d'investissement. Donc, on comble d'abord le besoin de financement, on comble le solde des reports et il nous reste un solde libre d'affectation que l'on affecte dans la délibération qu'il vous est présentée. Donc, c'est le même principe pour les budgets que je vais vous énoncer. Concernant le budget principal, il vous est proposé de procéder au titre de l'affectation obligatoire à l'inscription de la somme de 7,5 millions d'euros en recettes d'investissement. D'une part, comme je le disais, pour couvrir le besoin de financement de l'exercice à hauteur de 2,6 millions d'euros et pour financer le report à hauteur de 4,9 millions d'euros. Et puis d'autre part, de procéder à la répartition du solde libre d'affectation, soit 4,4 millions d'euros, de la manière suivante. En section de fonctionnement, une inscription de 323 891 euros en recettes et en section d'investissement, l'inscription de 4,1 millions d'euros en recettes, ce qui va nous permettre de participer à l'amélioration de l'autofinancement des investissements et de limiter le recours à l'emprunt. Je vous propose de passer à l'affectation du résultat pour le budget annexe du Golfe. Il vous est proposé de procéder à la reprise du résultat de fonctionnement, soit 125 240 euros, pour couvrir le besoin de financement pour 18 000 euros et le solde en excédent de fonctionnement reporté pour 107 000 euros. Concernant l'affectation du résultat pour le budget annexe des centres aquatiques, il vous est proposé de procéder à la reprise du résultat de fonctionnement de 490 259 euros, pour couvrir le besoin de financement pour 434 000 euros, en affectation libre d'investissement pour 38 000 euros et le solde en excédent de fonctionnement reporté pour 17 000 euros. Et pour terminer sur les affectations du résultat, il reste le budget annexe de l'île des loisirs. Il vous est proposé de procéder à l'inscription de la somme de 257 111 euros en recettes d'investissement pour couvrir partiellement le besoin de financement de 382 000 euros. Je vous remercie.
Merci Madame Raffanel. Cela appelle-t-il des commentaires ou des questions ? Non. Donc je vais mettre aux voix ce rapport numéro 9 relatif à l'affectation des résultats 2024 pour le budget principal ainsi que pour les budgets annexes. Y a-t-il des votes contre ? 6. Y a-t-il des abstentions ? C'est approuvé à la majorité. Je vous remercie. Clémence, vous conservez la parole pour le budget supplémentaire 2025 relatif au budget principal.
Oui, en effet. Alors, à travers ce budget supplémentaire 2025, nous poursuivons la trajectoire budgétaire que nous avons fixée depuis le début du mandat, celle d'une gestion rigoureuse au service de la bonne santé financière de notre commune. Donc, il s'agira d'aborder ici les ajustements comptables nécessaires en termes de fonctionnement et d'investissement. Notre cap reste clair, maîtriser les dépenses de fonctionnement et mobiliser les financements disponibles afin de poursuivre la mise en œuvre des projets structurants pour l'attractivité et la qualité de notre ville. Le budget supplémentaire 2025 du budget principal s'établit ainsi. 1,03 million d'euros en section de fonctionnement et 9,3 millions d'euros en section d'investissement pour un total de 10,3 millions d'euros. Si on regarde en premier lieu la section de fonctionnement au niveau de ses dépenses, les divers ajustements s'élèvent à moins 57 000 euros. Alors je vous propose d'évoquer simplement les grands chapitres qui sont concernés par ces ajustements. Les charges à caractère général, il s'agit d'un complément de crédit à hauteur de 191 000 euros. Donc il s'agit notamment des reprises de concessions du cimetière et puis diverses prestations culturelles et événementielles. Pour les charges de personnel, on inscrit une diminution de crédit qui est essentiellement due à l'ajustement du personnel sur le centre nautique. Pour le chapitre 14, les moins de 100 000 euros, il s'agit de la ponction du produit fiscal concernant la loi SRU qui est réduite donc de ce montant. Concernant le chapitre 65 qui concerne donc les autres charges de gestion courante, il s'agit d'un ajustement de crédit d'un million d'euros qui est inscrit afin d'abonder d'une part le budget annexe de l'île des loisirs, la participation au CIVOM ainsi que la participation au CCAS. Et puis pour terminer sur les dépenses de fonctionnement, le chapitre 68, c'est le chapitre des dotations aux provisions. Les crédits diminuent de 927 000 euros. En fait, ici, il s'agissait d'une provision que l'on avait constituée, je vous le rappelle, par mesure de prudence, eu égard aux efforts demandés par l'État dans le cadre de la loi de finances. Et cette réduction de crédit, elle va nous permettre d'alimenter le virement à la section d'investissement. Il convient pour terminer sur la section de fonctionnement de voir quelles sont les recettes qui sont concernées par ces ajustements. Alors, les éléments principaux liés aux ajustements budgétaires sont les suivants. D'une part, nous avons l'inscription de l'excédent de fonctionnement reporté de 323 000 euros qui résulte de l'affectation du résultat comme nous venons de le voir. Et puis la révision à la hausse de recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 700 000 euros. Donc là, 700 000 euros, il s'agit en fait d'un solde d'ajustement à la baisse et à la hausse. Parmi ces ajustements, on retrouve un transfert de crédit du chapitre 70 au chapitre 75 qui concerne la redevance qui est versée par la SODEAL pour les mois de janvier à mai, diverses refacturations avec les budgets annexes, un complément sur le chapitre 73 qui concerne les impôts et les taxes qui concerne des rôles supplémentaires et puis 120 000 euros de reprise sur provision. Je vous propose pour terminer d'aborder la section d'investissement. Donc en dépenses, les inscriptions concernant la reprise des résultats et des reports sont les suivantes. Le déficit d'investissement 2024 pour 2,6 millions d'euros et le solde négatif des reports pour 4,9 millions d'euros. Pour les autres dépenses, on peut noter un ajustement concernant le plan local d'urbanisme à hauteur de 60 000 euros. Les moins 600 000 euros du chapitre 204 correspondent à une programmation des travaux ajustés concernant le pôle d'échange multimodal, qui a pour conséquence donc de réduire les inscriptions de ces dépenses. Chapitre 21, il s'agit d'un complément de crédit à hauteur de 175 000 euros. Alors, entre autres, il s'agit de l'achat de bornes de recharge électrique, mais aussi ça concerne la réfection de deux gymnases. Le chapitre 23, c'est un réajustement à la hausse des travaux en cours concernant essentiellement le parking et l'aménagement paysager du Palais des Festivités. Et il y a aussi divers ajustements, comme vous pourrez le constater dans la délibération, pour les crédits relatifs aux grands projets comme la promenade, la rénovation énergétique de l'école Victor Hugo ou encore la passerelle. Donc je précise que ces ajustements d'inscription de crédits suivent en fait l'avancement des travaux, que ce soit les achèvements des différentes phases ou l'émission des factures par les entreprises. Il n'y a pas donc d'augmentation du coût du projet. En recette à présent, l'affectation du résultat 2024 qui s'élève à 11,6 millions d'euros permet de couvrir d'une part le solde des reports pour 4,9 millions d'euros, le déficit d'investissement pour 2,6 millions d'euros et puis il permet de financer des dépenses complémentaires d'investissement à hauteur de 4,1 millions d'euros. Deux principales variables d'ajustement à retenir pour les recettes. D'une part, nous avons les cessions d'immobilisation qui sont réduites de 1 million d'euros et les subventions d'investissement de 100 000 euros. Et puis d'autre part, le niveau d'emprunt de la ville diminue de 3,5 millions d'euros pour atteindre 9 millions d'euros, conformément à ce que nous avions annoncé lors du débat d'orientation budgétaire. Je vous invite donc à adopter le budget supplémentaire du budget principal 2025. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Raphaël, pour cette présentation précise et claire du budget supplémentaire 2025 qui est maintenant mise au débat pour sa partie relative au budget principal. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Non. Écoutez, donc je le mets aux voix. Je vous remercie. Vos explications ont été claires et elles ont été précédées d'un travail en commission au sein de laquelle sont représentées les diverses tendances de notre conseil municipal. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est approuvé. Je vous remercie. Question 11, toujours Clémence, pour le budget supplémentaire, mais cette fois-ci relatif au budget annexe du Golf.
Oui, donc le budget supplémentaire 2025 du budget annexe du Golf s'élève à 278 338 euros, donc 260 000 euros en fonctionnement et 18 000 euros en investissement. Alors, la section de fonctionnement, elle comprend en dépenses, d'une part, les charges à caractère général pour 69 000 euros. Il s'agit principalement d'ajustements budgétaires sur les fluides, les engrais et l'entretien des tondeuses. Les charges de personnel, donc 55 000 euros, elles concernent en fait l'intégration de deux moniteurs de l'académie suite à la reprise en régie de l'enseignement. Et puis, l'inscription en dépenses et en recettes de 97 000 euros, pardon, permettant en fait l'annulation de titres émis suite à une erreur de ciré, et puis donc de permettre leur réémission. Toutes ces dépenses, elles sont équilibrées par la reprise de l'excédent de fonctionnement à hauteur de 107 000 euros et par une nouvelle recette suite à la nouvelle activité d'enseignement dont je viens de parler. La section d'investissement, quant à elle, se caractérise par la reprise du déficit et des reports et elle est équilibrée par l'affectation du résultat pour 18 000 euros.
Merci beaucoup. Cela appelle-t-il des demandes de prise de parole ? Non ? Je vous remercie, Clémence. Je mets aux voix le budget supplémentaire 2025 pour le budget annexe du Golfe du Cap d'Agde. Donc, y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des 6. Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas. Donc, le budget est approuvé à la majorité. Venons-en maintenant au budget annexe pour les centres aquatiques.
Oui, le budget annexe des centres aquatiques s'élève à 490 000 euros, dont 17 000 euros en fonctionnement et 472 000 euros en investissement. La section de fonctionnement, elle concerne principalement les charges à caractère général, donc le chapitre 11, avec des ajustements budgétaires sur les produits des traitements qui sont dus à la fréquence de nettoyage des vestiaires, ainsi que des fournitures de petits équipements. Ces dépenses, elles sont équilibrées par la reprise de l'excédent de fonctionnement reporté à hauteur de 17 000 euros. En dépenses d'investissement, à présent, alors en dehors de la reprise du résultat négatif d'investissement de 418 000 euros et des reports, les crédits inscrits concernent l'achat de matériel technique, que ce soit serrure, casier, pompe à chaleur, matériel informatique, ainsi que l'achat de micros pour l'accueil, pour un montant total de 38 000 euros. Et ces dépenses d'investissement, elles sont équilibrées par l'affectation du résultat de fonctionnement pour un montant de 472 000 euros.
Merci. Madame Raffanel, a-t-elle été aussi claire concernant le budget annexe des centres aquatiques ? Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Oui, visiblement, ça a été tout aussi clair. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? 6 votes contre. Y a-t-il des abstentions ? C'est approuvé à la majorité. Je vous remercie. Nous terminons ce chapitre financier par la présentation du BS 2025 relatif au budget annexe de l'île des loisirs.
Le budget supplémentaire 2025 du budget annexe de l'île des loisirs s'élève à 508 295 euros, dont 125 592 euros en fonctionnement et 382 703 euros en investissement. Donc, il se caractérise par l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 257 000 euros et une subvention complémentaire de la ville à hauteur de 125 000 euros qui permet de couvrir le déficit d'investissement reporté 2024.
Merci Clémence. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? 6. Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas. C'est approuvé à la majorité. Pardon. Merci, Madame Raffanel.
Monsieur le maire, s'il vous plaît.
Oui.
Je dois m'absenter. Est-ce que je peux donner mon pouvoir à Monsieur Toureau ?
Ah, mais vous donnez le pouvoir à qui vous voulez, Monsieur Bentajou.
Je pensais qu'il fallait peut-être l'écrire sur un papier.
Ah, enfin, non, après, sauf si vous avez...
Je donne donc mon pouvoir à Monsieur Toureau.
Oui, bien sûr. Enfin, monsieur Taureau l'acceptera, j'en suis sûr, bien sûr, en tant que gentleman.
Vous l'acceptez, monsieur Taureau ?
Bien sûr. Très bien. Question 14.
Je vais voir mon beau-frère qui chante sur la production.
Bon, bah alors, bon concert et salutations à Jean-Pierre. Question 14. Attribution de subventions aux associations dans le cadre du contrat de ville engagement quartier 2030 de la ville d'Agde. Donc je vais passer la parole à monsieur Perea.
Oui, il s'agit comme chaque été des subventions complémentaires dans le cadre du contrat de ville. Tout a été dit dans le titre. Il y a 4 associations, AREPB, Danzard, Génération Musique et Lune au Soleil. Vous avez des montants dans les délibérations autour donc des arts et du développement durable pour la première.
Merci François. Est-ce que vous avez des questions à poser auxquelles se fera un plaisir de répondre monsieur Perea? Non? Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. La délibération est donc approuvée à l'unanimité, ce dont je vous remercie. La parole est maintenant à monsieur Villa pour l'attribution de subventions aux associations pour l'exercice 2025.
Merci monsieur le maire. Donc bonsoir à tout le monde. Donc la présente délibération a pour objet de procéder au vote de subventions annuelles versées aux associations locales. Il s'agit de subventions de fonctionnement d'une part pour l'école de Joute et de la pétanque amicale du Molle pour un montant de 3 400 €. Et d'autre part, des subventions liées à des actions pour accompagner les ambassadeurs du sport à Gatois ainsi que les athlètes de haut niveau à Gatois inscrits sur les listes ministérielles. Ces actions ont pour objet d'accompagner ces sportifs dans leurs projets tels les déplacements, le coaching et l'achat de matériel, sans oublier la culture avec le bouillon de lecture. Le montant total de toutes ces actions s'élève à 22 100 €. Il est donc proposé au conseil municipal de voter cette somme.
Merci, monsieur Villa. Cela appelle-t-il des remarques? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est approuvé à l'unanimité. Merci à vous tous pour le soutien apporté aux associations sportives et à ces jeunes athlètes qui portent les couleurs de la ville d'Agde. Alors, 4 ont été accompagnés récemment. Hein. Deux jeunes décathloniens, dont un
champion d'Europe.
Ouais, qui brille vraiment à un niveau européen. Monsieur Ferranti. Et plus récemment, donc, nous avons eu à accompagner une jeune danseuse ainsi qu'un jeune homme qui lui est engagé et obtient des résultats nationaux en matière de natation et de secourisme et de sauvetage. Voilà. Donc nous sommes très fiers de pouvoir les accompagner. C'est approuvé donc. Je laisse la parole à Thierry Villa pour le rapport 16 relatif aux tarifs de location d'installations sportives.
Alors, il s'agit de la revalorisation des tarifs de location des installations sportives pour 2025. Les installations concernées sont le complexe Millet, le stade pelouse et synthétique et la piste d'athlétisme, le palais des sports avec ses aires de jeu, sa salle de gym, le gymnase Charin-Moulinier, la salle Voltaire d'Amato et Carillon, les locaux administratifs. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de fixer les tarifs de location cités ci-dessus, d'accorder la gratuité d'utilisation aux établissements scolaires élémentaires à Gatois et aux associations qui les utilisent, et la mise en place de coûts de toutes les installations sportives mises à disposition pour les associations sportives.
Voilà. Merci Thierry. Y a-t-il des questions concernant cette délibération, Madame Varezano?
Oui, merci, Monsieur le maire. Nous sommes amenés à voter cette délibération puisque les pourcentages sont supérieurs à 5%. C'est cela? D'augmentation, hein. Et l'augmentation n'a pas été réévaluée depuis 2019. Or, aujourd'hui, certains pourcentages augmentent de 90%. Donc, je pense que c'est un choc tarifaire. Pourquoi ça n'a pas été fait progressivement? Est-ce que c'est un oubli d'avoir revalorisé les tarifs? Comment l'expliquez-vous?
Monsieur le directeur, s'il vous plaît.
Effectivement, ces tarifs n'avaient pas été réévalués depuis 2019. C'est dans le cadre d'une logique d'intervention avec le conseil régional et le conseil départemental de réévaluer certaines salles pour être en plein accord avec ce qui se pratique ailleurs. Et d'autre part, ces tarifs ne sont pas comme l'a évoqué monsieur le maire adjoint chargé des sports, ne seront pas appliqués aux associations sportives à Gatoise, mais à des associations extérieures qui viendraient louer nos installations à certains moments, notamment en période estivale, pour des stages et autres. Et donc c'est dans ce sens-là que l'augmentation est surtout impactée aux associations extérieures et non pas à nos associations qui bénéficient de la gratuité.
Oui, c'est d'ailleurs indiqué à Madame Barrezano.
Je l'ai compris, ça, mais je trouve que malgré tout, ça reste énorme, 90%. Sauf...
Oui, mais parce que malheureusement, quand
même si ça n'impacte pas nos associations.
Oui, et moi, je souhaite que nos équipements sportifs soient, dans un premier temps, dévolus et prioritairement aux jeunes agathois et aux associations agathoises. Et je pense que nous serons d'accord de ce point de vue-là. Il est indiqué d'ailleurs que nous proposons d'accorder la gratuité d'utilisation aux établissements scolaires élémentaires agathois, publics et privés, ainsi qu'aux associations sportives agathoises fréquentant les installations sportives correspondant à leur discipline. Donc les choses sont notées pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si demain, des associations extérieures à notre commune souhaitent utiliser nos équipements et que nous avons la possibilité, c'est-à-dire les disponibilités pour les accueillir, ce sera avec plaisir. Mais moyennant une participation qui sera plus en rapport avec
compris,
la réalité.
Ce qui est normal, ma question était voilà, cette explosion des tarifs soudaine.
Oui, ce n'est pas une explosion, c'est un ajustement. Ouais, c'est
un ajustement de 90%. C'est un gros ajustement.
Enfin, parce qu'il n'avait pas été effectué depuis trop longtemps.
Oui, donc c'était un oubli. Qu'est-ce que c'est?
Non, je ne sais pas si c'est un oubli. Mais en tout cas, il convient de se caler par rapport à une réalité des coûts de fonctionnement qui sont supportés par la ville d'Agde.
Et
en aucun cas, ils ne viendront obérer les finances des associations agathoises, ni même des établissements scolaires agathois pour qui la gratuité sera conservée.
J'ai compris. Alors après, est-ce que nous sommes, en termes de tarifs, comme vous prenez le fait d'un nouveau tourisme, notamment sportif, est-ce que les tarifs de nos équipements sont aujourd'hui compétitifs?
Monsieur Yvain, je vous invite à répondre à Madame Barrezan. Voilà. Et pour ne rien vous cacher, vous devez le savoir d'ailleurs, puisque vous suivez attentivement et sérieusement l'actualité agathoise, j'ai signé il y a 15 jours avec la Fédération française du sport universitaire une convention de partenariat qui va nous ouvrir la possibilité de candidater à des événements nationaux et même internationaux de sport universitaire. Et donc, de l'avis même de mes interlocuteurs, à savoir les responsables de la Fédération française du sport universitaire, donc les équipements qui sont les nôtres sont comparés par eux à ceux qui sont considérés toujours par eux comme étant les plus appropriés à des organisations que nous souhaiterions obtenir, à savoir ceux de Vichy. Donc, il nous faut aussi ajuster le barème, eu égard à la qualité des équipements dont nous disposons. Mais encore une fois, je veux être absolument clair sur un point qui est important, puisque nous incitons tous les jeunes agathois, enfin jeunes et moins jeunes d'ailleurs, à pratiquer le sport. Donc cet ajustement, la prise en compte de ce retard que nous rattrapons, ce rattrapage, plus qu'un ajustement, puisque vous me direz que 90% c'est plus qu'un ajustement, c'est un rattrapage, en effet, mais on est d'accord avec ça. Sur ce point, il n'y a pas, je pense, de désaccord entre nous. Ne contrariera d'aucune manière les finances des équipements des établissements scolaires et des associations agathoises. Voilà, que cela soit très clair. Je l'ai dit trois fois, donc j'espère que j'ai été clair. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci. Merci Thierry, tu as raison. Tu m'avais alerté. Thierry ne peut pas prendre part au vote étant président du ROA. Donc en effet, il est plus sage que tu ne prennes part au vote. Que tu te déportes, comme on dit. Donc je mets aux voix. Thierry Dominguez ne prenant pas part au vote. Y a-t-il vote contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Question 17. Révision et adoption des tarifs au musée et patrimoine. Donc je cède la parole à Christine Antoine. Merci, Monsieur Villa.
Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit de l'adoption de la mise à jour des tarifs pratiqués dans les musées dans le cadre de la gestion de la régie de recettes dédiée au musée et au patrimoine de la ville. Une révision des tarifs a été effectuée. Cette mise à jour vise à adapter la grille tarifaire aux prestations actuelles de la nouvelle offre boutique. Il est ainsi proposé d'adopter une nouvelle grille tarifaire soumise à validation.
Très bien. Donc, il y a une demi-douzaine de pages.
Oui. En résumé, la boutique a été étoffée avec des bijoux fantasy, des livres et des jeux pour les enfants et des produits d'épicerie fine. Voilà.
Donc, pour les gourmands.
Lister, hein. Je vois Stéphane qui me regarde.
Ah, tout de suite, on dit les gourmands, donc on pense à toi.
Donc, il est proposé d'adopter cette nouvelle grille tarifaire.
Très bien. Merci, Christine. Y a-t-il des questions à ce propos ? Madame Varezano.
Ouais, très rapidement, il aurait été bien là aussi de nous joindre les tarifs précédents pour qu'on ait un comparatif.
Il n'y a rien qui a changé à part qu'on a rajouté ces bijoux fantasy en fait.
D'accord.
Ouais, ce sont des nouveaux produits, voilà. Ouais. Et sinon, rien n'a changé du coup.
Ok, merci pour cette précision. La question est légitime, donc la réponse est claire. Finalement, Madame Varezano a préféré vous poser des questions à vous qu'à moi. Parce qu'avec vous, elle obtient des réponses. Et moi, elle se plaint de ne pas en obtenir toujours.
C'est plus compliqué.
Bon, allez. Il nous faut voter cette délibération. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas. Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Merci. Question suivante, toujours Christine. Projet très important. Une question très importante. Projet scientifique et culturel du musée Agathois, tout d'abord. Ensuite, je mets en perspective et puis je vous laisse la parole, Christine. Ensuite, la convention pour l'exposition Actes grecs en partenariat avec l'Institut national de recherche archéologique, l'INRAP. Et enfin, troisième question très importante, projet scientifique et culturel du musée de l'Éphèbe, cette fois-ci, et d'archéologie sous-marine. Donc, nous avons d'ailleurs reçu les représentants de la DRAC et de la DRASM il y a quelques jours pour officialiser, dans l'attente de cette séance publique du conseil municipal, valider les deux projets scientifiques et culturels concernant nos deux beaux musées. Allez, Christine, nous écoutons.
Donc, le premier PSC, c'est celui du musée Agathois Jules Baudoux. Donc, le projet scientifique et culturel, le PSC, est un document réglementaire demandé par les services de l'État, par la DRAC, donc, au musée labellisé Musée de France. Ce document propose de conduire une nouvelle politique muséale en 5 points clés. Un musée moteur du vivre ensemble et de l'attractivité culturelle. Une ouverture renforcée sur la ville et le public. Des espaces adaptés aux missions et au public, une rénovation énergétique et une accessibilité, un musée en réseau pour une valorisation du patrimoine hors les murs. Le musée s'inspire de modèles européens innovants pour devenir un musée d'histoire de ville, ouvert sur son territoire et ses habitants. En résumé, ce projet transformera le musée Agathois en un moteur de cohésion sociale, un pôle culturel moderne et durable, et un ambassadeur du patrimoine d'Agde au service de tous les habitants et visiteurs. Alors, la validation de ces documents par le conseil municipal et les services de l'État permettra de donner à la ville une feuille de route en vue de travaux de rénovation et d'extension pour le musée Agathois Jules Baudoux, ainsi que la possibilité de solliciter des subventions pour des demandes de restauration et ou d'acquisition de collections, des projets de travaux scénographiques et d'expositions temporaires. Alors là, vous avez le slide avec tous les points du PSC du musée Agathois.
Après, j'espère que le PSC pourrait être un document consultable, puisqu'il est vraiment d'une très très grande valeur. Il a été l'objet de plusieurs années de travail.
Oui, de
trois ans de travail entre les services.
J'ai Marion qui est à côté, on l'a félicité.
Oui, la conservatrice que l'on peut remercier en effet pour la qualité du travail effectué.
Cette qualité de travail rigoureuse, de professionnalisme, ça fait trois années d'échange finalement, de rédaction aussi avec les services de l'État, avec nos institutionnels, avec la DRAC, avec le DRASM, avec la région et le département. Ça a été un très long travail aussi avec les agents du musée. En fait, je félicite Marion parce que c'était très fastidieux et franchement, c'est un travail formidable. Voilà, je continue sur la convention avec l'INRAP et je finirai par le PSC du musée de l'Éphèbe.
Allez, nous t'écoutons et nous procéderons au vote après la présentation des trois rapports.
Ouais, donc là, donc ça c'est la convention. Alors pour l'exposition Actes grecs avec l'INRAP. Alors la ville d'Agde s'est associée en 2023 à l'Institut national de recherche archéologique préventive, donc l'INRAP, pour une collaboration culturelle et scientifique afin de valoriser et préserver l'identité archéologique forte du territoire d'Agde et ses collections. Les deux entités s'accordent aujourd'hui à formaliser une convention financière pour concevoir et produire l'exposition Actes grecs, découvertes archéologiques du Rhône aux Pyrénées et le catalogue y afférent. Cette manifestation se déroulera au musée de l'Éphèbe d'avril à novembre 2026 et cette convention particulière d'application définit les engagements respectifs des partenaires signataires. Donc vous êtes appelé à vous prononcer sur l'autorisation à donner à Monsieur le maire pour signer cette convention pour l'exposition Actes grecs avec l'INRAP qui aura lieu donc eh bien en avril 2026, au printemps prochain.
Tout à fait.
Jusqu'en novembre.
D'avril à novembre 2026.
Voilà, donc ça...
Et Christine, on t'écoute pour la présentation du rapport 20 et ensuite chacun aura évidemment la possibilité de s'exprimer sur l'une ou l'autre de ces questions.
Du musée de... Les faibles. Voilà. Alors, le projet scientifique, comme je viens de le dire, le PS, est un document réglementaire. Donc, il faut être en règle vis-à-vis de l'État, en fait, du ministère de la Culture. Donc, demandé par les services de l'État, de la DRAC et au musée labellisé Musée de France. Ce document stratégique et opérationnel qui dessine les objectifs et les orientations du futur musée se base sur 5 points. Une nouvelle identité pour un musée d'envergure régionale, une rénovation énergétique et une conservation optimale, une expérience de visite repensée des espaces d'accueil modernisés, une visibilité et une attractivité accrue du musée, des espaces extérieurs et des services événementiels pour un musée vivant. Alors, en résumé, ce projet de rénovation vise à transformer le musée de l'Éphèbe en un pôle culturel incontournable, innovant, durable et ouvert à tous au service du rayonnement d'Agde et de son territoire. La validation de ces documents par le conseil municipal et les services de l'État permettra de donner à la ville une feuille de route en vue de travaux de rénovation et d'extension pour le musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine, ainsi que la possibilité de solliciter des subventions pour des demandes de restauration et ou d'acquisition de collections, des projets de travaux scénographiques et d'expositions temporaires. Donc vous avez aussi la slide là pour le musée de l'Éphèbe.
Merci beaucoup, Christine.
Donc, ouais, ce sont des documents qui sont finalement obligatoires, mais stratégiques, parce que ils dessinent les ambitions et les objectifs pour le futur de nos deux musées. Donc,
tu as raison de...
surtout des projets de rénovation, d'extension, de modernisation, de meilleure conservation des œuvres avec d'une belle scénographie moderne. Et donc, peut-être on pourrait laisser la parole à Marion qui pourrait nous en dire un peu plus. Donc, je ne sais pas.
Merci Christine pour la présentation de ces trois rapports qui, tu as raison
alors,
de le souligner.
Là, il faut les valider. Hein, les valider et ils seront instruits. Dès la validation ce soir du conseil municipal, ces deux PSC seront instruits à la DRAC, par la DRAC, par la Direction régionale des affaires culturelles.
Très bien.
Nous serons en règle vis-à-vis l'État.
Mais comme elle est passionnée par le travail qui est effectué, je comprends qu'elle prenne du plaisir à le présenter.
Ça fait depuis 2023, c'est obligatoire.
Ouais.
Parce qu'avant, lorsque l'on demandait des subventions pour des restaurations de collections, on avait l'aide de l'État. Et là, maintenant, comme nous n'avions pas de PSC en règle, rédigé, on ne pouvait plus prétendre aux subventions. Donc là, maintenant,
nous pourrons y prétendre, mais en plus, nous avons obtenu de la bouche même des représentants de la DRAC, de la DRASM et de l'INRAP, justement, l'expression de l'approbation et même de allez, j'allais dire l'enthousiasme, je ne veux pas m'exprimer à leur place, mais en tout cas de l'envie qui est la leur de renforcer les partenariats qui doivent nous unir. Donc merci au travail qui a été réalisé par l'administration. Et sous évidemment sous l'égide de Christine Antoine en sa qualité d'adjointe au maire. Est-ce que ces trois rapports appellent de votre part des questions ou des commentaires? Non. Des félicitations de Monsieur Perea. Très bien, ça c'est fait. Pas d'interrogation. Très bien. Je mets donc aux voix alors le rapport 18, projet scientifique et culturel du musée Agathois. Tout d'abord, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il est approuvé à l'unanimité, ce dont je vous remercie. La convention pour l'exposition Actes grecs avec l'INRAP, donc qui sera inaugurée en avril de l'année prochaine et ouverte au public jusqu'au mois de novembre de l'année prochaine. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Nous sommes donc tous d'accord, c'est parfait. Voté à l'unanimité. Et enfin, question 20, projet scientifique et culturel du musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. C'est donc à l'unanimité que le projet 20, que le rapport 20 est lui aussi approuvé. Merci Christine. Nous revenons maintenant vers François Perea. Pour des questions relatives à la réhabilitation du cœur de ville, donc en premier lieu, la désignation du bailleur social retenu pour la production de logements sociaux sur des immeubles acquis par l'EPF. Donc vous avez la parole, François.
Merci. Mais encore une fois, tout est dans le titre. L'EPF a fait des acquisitions foncières de 5 immeubles, rue de Cameron, rue du 4 septembre et rue de la Casemate, et il souhaite confier le portage, évidemment, à un bailleur social pour réaliser ses logements, et il a choisi FDI Habitat. Nous devons valider ce choix et désigner FDI.
Oui, d'ailleurs, contrairement à ce que je viens d'indiquer, cela ne concerne pas, là, en l'occurrence, que le cœur de ville, mais c'est dans le cadre de sa... Encore que l'EPF est très mobilisé sur le cœur de ville.
Oui, là, on est...
Oui, donc, c'est... Oui, on peut considérer que je n'ai... Oui, c'est exact. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Dumont, je vous en prie.
Oui, effectivement, comme vient de le dire Monsieur Perea, donc à nous de valider donc, le choix qui a été fait par le
oui, par le PF. Oui.
Ma question est simple, et je l'avais posée en commission, et on me devait me donner la réponse, et donc je ne l'aurais pas posée aujourd'hui, mais comment le PF a choisi ce FDI Habitat? D'autant plus, pourquoi je pose cette question-là, c'est qu'on va retrouver sur plusieurs dossiers qu'on va traiter à ce conseil, FDI Habitat. Oui. À une époque, on voyait d'autres promoteurs sociaux. Là, on voit FDI. Donc, je me pose sérieusement la question, comment...
Alors, à l'époque, on voyait quel...
J'ai plus en tête les noms, mais on l'avait validé, d'ailleurs, en commission, ouais, le fait qu'il y avait bien d'autres promoteurs qui venaient. Voilà. Simplement, comment le PF donc, a été choisi?
Monsieur Perea, s'il vous plaît.
Le PF l'a choisi, on n'a pas en fait des critères, ils se sont rapprochés des gens qui souhaitent venir, et vous avez tout à fait raison, parce qu'en préparant les délibérations, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de FDI dans l'histoire, mais que ce soit pour celle-ci, que ce soit pour les îlots Amour et Terris, bon, ben, les choses changent, mais au moment où les dossiers sont lancés, l'attractivité du cœur de ville était pas folle. Et FDI Habitat a un attachement au territoire. D'ailleurs, il commence un peu à nous taquiner des fois en nous disant, vous donnez toujours les opérations dont pas grand monde veut, mais ils ont commencé leur carrière notamment avec des premières opérations sur Alpes. Donc on arrive, si, je vous assure, et donc on arrive à les avoir. Mais là, sur les critères d'EPF, c'est eux qui ont choisi et... C'est une interprétation personnelle. Je pense qu'ils ont choisi la personne qui souhaitait venir. On a des difficultés, des fois, pour avoir des bailleurs. Par exemple, on a eu un souci avec Taux Habitat, parce qu'ils ont des difficultés aussi ces dernières années, et qu'ils regardent à deux fois avant d'engager des frais. Voilà. Taux Habitat qui, pourtant, est... voilà,
Mais, Monsieur Dumont, sauf erreur de ma part, FDI a réalisé des opérations ici à Haye depuis au moins une vingtaine d'années. Hein.
Mais je mets pas en cause FDI.
Non, je n'ai pas dit que vous mettiez en cause FDI.
À partir du moment où on va retrouver ce promoteur, donc j'appelle ça un promoteur.
Là, ce
bailleur social,
sont des opérateurs sociaux.
Tout à l'heure du social.
Ouais.
Pourquoi et comment il a été choisi et pourquoi lui? Voilà.
Enfin, ouais.
Il y a dans toute la partie administrative, dans tous ces dossiers-là, il doit y avoir des procédures administratives. Et je suppose qu'il doit y avoir un appel d'offres de lancer.
Peut-être, je dis bien, je ne sais pas, je n'ai pas eu d'échange avec la directrice, Madame Lafenêtre, qui est directrice de l'EPF à ce propos, mais peut-être que l'EPF aussi souhaite avoir sur des secteurs des interlocuteurs qu'ils savent mobiliser. En l'occurrence, FDI est un opérateur dont le siège social est à Montpellier. L'EPF est devenu depuis quelques années un opérateur régional, mais au sens de la grande région Occitanie, ce qui d'ailleurs au début nous a un petit peu inquiétés. Bon, ils se sont adaptés et si leur choix se porte sur FDI, nous, ça ne nous inquiète pas. Voilà, on considère que FDI Habitat, alors il y a différentes filiales parce qu'ils se sont spécialisés sur un certain nombre de segments pour être, j'imagine, plus opérationnel, plus efficace. C'est un opérateur qui sait faire les efforts nécessaires, il me semble, et qui n'est pas à la recherche d'un profit comme d'autres pourraient l'être.
Juste un deuxième petit point, mais qui est, par rapport à ça, est qu'un point de détail. Quand on voit le plan avec la photo, on a quand même pas mal d'arbres, et il n'y a pas beaucoup d'arbres autour. Et donc, je suppose qu'on va planter un immeuble donc à la place de ces arbres.
Non, pas un immeuble, madame. Monsieur. Merci. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Pas d'immeuble.
Ne parlons pas de genre.
C'est la rue Cameron.
Oui, c'est la rue Cameron, oui.
Là, c'est une bande, c'est des maisons en bande.
Oui, je connais.
C'est pas un immeuble, ce sont des maisons en bande. Il y a 11...
Qui sont prévues?
Oui, d'accord. Tout à fait. 11 petites maisons en bande. Et d'ailleurs, l'opération va permettre d'améliorer la situation actuelle puisque l'aménageur va créer un point de retournement aujourd'hui qui n'existe pas.
D'accord.
Voilà. Donc, alors c'est un dossier sur lequel on est depuis un certain nombre d'années. À mon avis, ça fait 4-5 ans. Je sais qu'il y a eu un recours par des gens qui d'ailleurs ont été invités à la concertation en présence des représentants de FDI. Bon, les choses se sont bien passées. Après, in fine, il y a toujours au moment du permis quelqu'un qui, certainement bien conseillé par un avocat, dépose un recours. Ils ont l'habitude. Et ça, c'est le problème des opérateurs, c'est pas le problème de la ville. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a négocié en présence des propriétaires, des riverains et de l'opérateur les conditions qui nous semblaient être les plus intelligente pour la vie du quartier. Bon, voilà, donc 11 petites maisons en bande et pas de collectif. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Merci. Question 22, François Perea, pour la mise en place de la gestion. Alors oui. Alors là, c'est une question. J'espère que vous n'aurez pas trop d'interrogations parce que c'est très 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 technique. Mise en place de la gestion en flux des droits de réservation des logements sociaux avec le bailleur FDI Habitat. Bon courage, monsieur Perea.
Mais je vous remercie. On n'en manque pas. Et du cœur à l'ouvrage. FDI Habitat encore, hein, vous avez raison. Mais sur la suivante, il y a une pause. Après, on reprend. Didactique. Les personnes morales, donc notamment les villes, ont un droit de réservation sur les logements sociaux en contrepartie de leurs aides financières d'un terrain qu'elles donnent, par exemple. Ce droit donnait lieu à ce que l'on appelait une gestion en stock, c'est-à-dire sur un immeuble, par exemple, on avait droit à un T2. Et quand les gens partaient de ce T2, la ville qui avait son T2 devait mettre une personne dans le T2, ce qui n'était pas très pratique toujours, parce que des fois on a besoin d'un T3, des fois on a besoin d'autre chose. Depuis quelque temps, les choses ont changé. Nous sommes passés de la gestion en stock à la gestion en flux, ce qui fait qu'on n'a plus un T2 spécifique sur un immeuble, on n'a plus une adresse, mais on a un pourcentage qui correspond à cet équivalent de T2. Et notre droit porte sur l'ensemble du patrimoine locatif du bailleur à l'échelle de la ville. Donc quand notre T2 se libère, on peut très bien mettre quelqu'un d'autre ailleurs, à condition que ça corresponde au même pourcentage. Et c'est donc ces pourcentages que nous faisons pour FDI Habitat et que nous allons faire pour les autres, les uns à la suite des autres, probablement, enfin, espérons-le, parce que ça apporte beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de possibilités de faire de la mixité sociale et de déplacement, on est moins contraint. Et donc là, ce droit, nous avons, la ville d'Agde possède 11,26% de droits sur les logements de FDI Habitat sur la commune, et donc il faut acter cette nouvelle possibilité de passer passé de la gestion en stock à la gestion en flux. J'espère que ça n'a pas été trop confus. Un petit jeu de mots quasi estival. Oui. C'était nul, j'en conviens. Mais
d'accord. Allez.
Je remplace.
On est à la moitié du conseil municipal, donc il nous faut rester concentré. Voilà. Bon, je trouve que ça a été expliqué de manière claire. C'est censé permettre, c'est censé permettre une meilleure adaptation de l'offre. Et du besoin. Mmh. Voilà. Après, pour les bailleurs en particulier, c'est quand même un véritable casse-tête parce qu'il faut qu'ils raisonnent non plus sur l'appartement qui vient d'être libéré, mais sur le volume dans sa globalité. Bon, voilà. On essaiera d'en tirer le meilleur parti pour les demandeurs d'un logement social. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des... abstentions? Non, je n'en vois pas. C'est approuvé. Merci. François, concernant la question 23, convention de coopération avec l'association foncière logement, l'AFL, dans le cadre du dispositif DINEO pour la résorption de l'habitat indigne.
Oui, alors DINEO, c'est un dispositif qui vise à accompagner les collectivités dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, qui nous occupe beaucoup, notamment au cœur de ville. Et alors... c'est un dispositif qui, vous l'avez ici, travaille sur un panier, c'est-à-dire ce qu'ils appellent un panier, un certain nombre d'adresses pour lesquelles ils vont, dans un premier temps, faire des études, mais des études qui sont extrêmement complexes et poussées, puisqu'ils voient aussi des difficultés qu'on pourrait avoir avec éventuellement avec les ABF, les surcoûts des procédures. Donc ils font des études qui sont très très détaillées, et ensuite... ils peuvent réaliser des opérations. Donc l'idée, ben, c'est d'approuver cette convention de coopération avec DINEO de la foncière logement et de le travail sur les adresses qui sont affichées sur la slide.
Merci. Est-ce que cela appelle des demandes de précision ? Oui.
Oui, juste quelques précisions. La foncière logement, par son dispositif DINEO... fait des études sur chaque immeuble de faisabilité. Et dans le cas où ces études n'aboutissent pas, donc il y a un coût, est-ce que la ville est engagée dans ce genre d'opération ou est-ce que ce sera une opération blanche pour la ville si l'opération ne va pas jusqu'au terme ?
C'est une opération blanche pour la ville. C'est la foncière logement qui finance l'intégralité de ces études.
D'accord.
Alors, c'est quand même une petite embellie pour le coup.
C'est intéressant.
Oui, oui, non, franchement...
Alors après, il y a, dans la convention qui est signée, il y a aussi... c'est eux qui ont aussi la main sur l'attribution des logements. Et est-ce qu'à un certain moment, il y a un retour en conseil municipal de l'opération pour savoir un petit peu où est-ce qu'ils en sont, pourquoi ils n'ont pas fait et quels sont le type de locataires qu'ils peuvent mettre dans leur logement?
Ils vont mettre les types de locataires qui sont destinés à être dans ces logements sociaux. Donc
ils ne reviennent pas vers la ville à un certain moment pour faire le bilan de ce genre de choses-là.
S'ils sont dans un cadre d'un conventionnement avec un opérateur, on aura un pourcentage. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive... honnêtement, je ne connais pas un seul bailleur qui, à un moment, ne vient pas nous voir pour nous dire et pour nous demander, parce que leur avantage à eux aussi, c'est d'avoir des immeubles qui soient correctement occupés. Donc ils font confiance au service de la ville, et notamment au service qu'en cas de M. Toureau et au CCAS, pour essayer d'avoir des immeubles qui soient dans une sorte d'harmonie sociale et de mixité sociale qui leur permettent de ne pas avoir de soucis, parce que il ne faut pas croire que les bailleurs mettent des gens et puis reviennent plus, parce qu'il faut derrière qu'ils gèrent aussi ces immeubles.
En fait, ce que vous dites, M. Pereira, c'est que le contingent, le choix, l'attribution des logements qui se fait dans le contingent du bailleur se fait dans une transparence et dans une relation de partenariat avec la collectivité. Voilà, et donc ça, sous l'œil de Guylain Toureau, en l'occurrence.
Extrêmement vigilant, de M. Toureau.
Monsieur Dumont, non, c'était la même question ? Ok, très bien. Merci, Monsieur Pereira. Merci, Monsieur Nadal. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Question 24, déclassement et cession des immeubles communaux. Alors, il y a un certain nombre de références cadastrales dont je vous ferai l'économie. Ces références cadastrales font référence au projet de réhabilitation des îlots Théris et Amour. pour lesquels la société FDI Habitat a en effet répondu à l'appel à projet qui avait été lancé par la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée.
Tout à fait, monsieur le maire. Donc les îlots Amour, hein, rue de l'Amour et Terris, place Terris. Alors peut-être, si vous le permettez, un très rapide historique. En septembre 2023, la commission avait attribué à une société PM2B le chantier pour ces deux îlots. Il se trouve que nous avons cessé collaboration avec PM2B pour deux raisons. La première, c'est qu'ils devaient acquérir très rapidement des immeubles, ce qu'ils n'ont pas fait. Et en conséquence, on a demandé des garanties bancaires supplémentaires qui n'ont pas été en mesure d'apporter. Aussi, avec les représentants de l'État, on a préféré arrêter parce que le retard aurait pu être accumulé, empêchant notamment de toucher les subventions. Donc, un autre appel pour la concession d'aménagement a été réalisé et le choix s'est porté sur FDI Habitat. Et donc, eux, par contre, ne tardent pas pour acheter des immeubles, ça tombe bien. Il y en a 5 rue de l'Amour, les LI 50, 54, 55, 61 et 62. Et il y en a 10 Terris, je vous en fais grâce. Alors la valeur totale est de 770 000 euros. Il faut que nous approuvions le déclassement et la cession à FDI au prix suscité.
Ok, merci Monsieur Perea. Et donc ce choix a été opéré, je le dis, je crois que nous avons d'ailleurs déjà évoqué le sujet ici en conseil municipal, en parfait accord avec les services de l'État, puisque en effet, c'est dans le cadre des crédits octroyés à la collectivité par l'Agence nationale de rénovation urbaine que nous allons chercher les financements. Or, ces financements ne peuvent nous bénéficier que s'ils sont engagés dans un calendrier qui a été d'un commun accord préétabli. Donc, eu égard aux difficultés que l'on a commencé à pressentir concernant le précédent partenaire qui avait été identifié, nous avons préféré prendre toutes nos responsabilités et dire que nous arrêtions avec le premier pour nous retourner vers un deuxième qui a répondu, en l'occurrence, donc à l'appel à projet auquel je faisais référence, lancé par la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Voilà. Est-ce que cette double explication vous suffit? Est-ce qu'il y a besoin de vous apporter d'autres éléments? Alors, je mets le rapport 24 aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Question 25. Nouveau traité de concession avec FDI Habitat pour la réhabilitation des îlots Amour et Terris dans le cadre du NPNRU, justement.
Bah oui, c'est donc la suite. Il s'agit de la subvention d'équilibre. Alors, puisqu'on a évoqué l'historique, on va continuer. Nous avions une subvention d'équilibre de 1,4 million d'euros, la moitié pour la ville, la moitié pour la communauté d'agglomération, avec l'ancien concessionnaire. Et avec le nouveau, c'est moins cher. C'est 930 000 euros de subvention d'équilibre. Toujours distribué équitablement, si j'ose dire, entre la ville et l'aglo. Et d'autre part, il y a 740 000 euros que doit investir la ville pour pouvoir aménager. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Pour pouvoir aménager les espaces publics alentour. Il faut préciser que sur la moitié de la subvention d'équilibre, donc la moitié qui échoit à la ville, 465 000 euros. L'intégralité de cette somme sera déductible des pénalités SRU parce qu'elle sera fléchée sur des logements sociaux. Aussi, cette partie est en quelque sorte blanche, pour reprendre votre terme, pour la ville.
Tout à fait. Comme cela a été le cas d'ailleurs dans le cadre d'autres montages, nous avons la possibilité de déduire de la pénalité due par notre collectivité en raison du fait que nous n'atteignons pas l'objectif de 25% du logement social sur notre territoire. Voilà. Monsieur Dumont, vous avez la parole.
Oui, effectivement. Vous savez que sur ce type de sujet, j'interviens régulièrement. Et vous savez notre attachement donc à la rénovation du centre-ville. Je constate donc dans la convention telle qu'elle est signée que l'affectation sera à 100% pour le logement social. Et donc j'apprécie le fait que les agatoites pourront trouver un peu plus de logements à disposition dans le centre-ville. comme la dernière fois, on avait eu pas mal de sujets sur la convention, l'aspect financier de la convention, j'ai regardé cette convention un petit peu spécifique de près. Et j'ai trouvé l'article 14 qui précise bien que cette convention est signée à risque et péril pour le concessionnaire, ce qui est la règle normale. Et donc, contrairement à ce qu'on a pu vivre lors de précédents conseils municipaux, on peut penser qu'effectivement, il n'y aura pas d'avenant financier sur ce type de dossier-là. Par contre, il y a un autre article qui est l'article 17.2. Et là, peut-être qu'on pourra m'expliquer, parce que j'ai beau chercher, j'ai pas compris. Si c'est à risque et au péril pour le concessionnaire, donc je suppose que c'est cadré et on ne reviendra pas sur le prix. Or, il se trouve qu'à la fin de la concession, il y a un bilan qui est fait et je note le solde négatif correspondant à la dette due par le concessionnaire au concédant sera reversé. Le solde positif correspondant à la dette due par le concédant, c'est-à-dire la ville, sera reversé au concessionnaire. Et là, j'avoue que je n'ai pas du tout compris. J'ai posé la question à des gens qui sont plus qualifiés que moi encore sur ces aspects financiers qui n'ont pas su me répondre. Donc je suppose que les services de la commune ont une réponse. Et vu ces articles-là...
Je pense, Monsieur Dumont, je me tourne vers l'administration, mais je pense qu'il s'agit d'une écriture, voilà, d'une clause qui peut être intégrée, mais en aucun cas il ne peut se produire que la ville doive au concessionnaire quelque somme que ce soit.
Voilà. Vous savez, enfin, je c'est écrit comme ça, donc.
Oui.
Donc et on sait bien que les contrats sont les contrats et que lorsque le.
Mais il n'est pas possible que nous soyons redevables.
C'est écrit quelqu'un.
Oui, non. Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. Ce que je veux, ma lecture de cette clause à laquelle vous faites référence, c'est que, enfin, ma compréhension en tout cas de cette écriture, c'est que il s'agit d'une clause, j'ai envie de dire type, qui est insérée dans des projets, mais qui ne peut pas donner effet. L'effet que vous redoutez, étant donné que je ne vois pas comment le concédant que nous sommes pourrait être débiteur en direction du concessionnaire. Ce n'est pas possible dans l'opération.
Nous sommes tout à fait d'accord. On ne voit pas pourquoi.
Donc c'est une écriture.
Ouais. C'est écrit tel quel. Ouais. Donc j'aimerais bien quand même qu'on puisse m'expliquer et on ne pourra pas voter pour ce projet-là, tant à écrire comme ça.
Oui, d'accord.
Il y a un autre sujet aussi qui, dans la rédaction, qui m'a interpellé, c'est l'aspect des parkings. Et dans l'article 1.4, on dit l'ajout de stationnement n'est pas nécessaire car, et je cite, le projet de réorganisation du cœur de ville prévoit la création d'un parking souterrain au nord de la promenade. J'en déduis qu'il n'y aura pas de parking dans ces aménagements-là.
Si, bien sûr.
L'ajout de parking supplémentaire n'est pas nécessaire.
Non, mais de parking supplémentaire. Non, mais il y aura bien évidemment dans le cadre du projet une prise en considération de la question du stationnement.
On peut difficilement imposer dans un îlot rue de l'Amour qui se trouve à la conjonction de la rue de l'Amour, de la rue de la Châtre et de la rue Gouin. Je ne sais pas si vous voyez à peu près où on est.
Bien, oui.
Là déjà, il faut y arriver en voiture. On peut difficilement imposer. Non, mais très sincèrement, je pousse toujours pour qu'on en fasse plus qu'on devrait en faire. Mais là, on ne peut pas dans la concession.
Mais après, on peut penser, monsieur. D'ailleurs, c'est une réflexion que nous aurons et qui peut-être fera l'objet d'échanges dans les mois à venir sur la question du stationnement. Là, on raisonne dans le cadre du permis de construire. On est évidemment, si on veut que dans les permis de construire concernant des îlots en plein hypercentre, on impose des règles identiques à des opérations qui sont en cours d'aménagement sur le long de la route de Sète. On n'aura jamais aucune opération qui se réalisera dans le cœur de ville, ce que nous souhaitons, évidemment. Par conséquent, il nous faut appréhender cette question du stationnement dans un périmètre un petit peu plus large et en considérant des solutions qui seront certainement très différentes de la création, dans le cadre de l'assiette du permis, des stationnements.
Non, avec cette rénovation, on va amener de la population supplémentaire en centre-ville, ce que nous sommes.
C'est ce que nous souhaitons.
Voilà, on souhaite, on la souhaite aussi. Mais ce qui veut dire que les stationnements qui sont à disposition aujourd'hui seront saturés. Et donc, on renvoie sur le parking souterrain. Et premièrement, je ne sais pas.
Pas forcément uniquement.
C'est écrit tel quel.
D'accord.
Écrit tel quel. Donc excusez-moi.
Oui, mais cela ne nous interdit pas de réfléchir à d'autres solutions.
Oui. J'en doute pas.
Ce qui est écrit pose un cadre, mais on a des projets d'aménagement d'autres parkings, notamment à l'intérieur même de l'hypercentre, par exemple au niveau de au-dessus du square Pichère, on peut très bien imaginer qu'il y ait une connexion entre cet aménagement-là et la réalisation de l'opération que nous souhaitons, puisque on est bien d'accord, il faut amener des gens à habiter plus nombreux en cœur de ville, et ce faisant d'ailleurs opérer une forme de mixité sociale. Parce que quand on pense mixité sociale, des fois on se dit, oui, il faut rendre accessible des quartiers de riches à des gens qui n'ont moins de moyens. En l'occurrence, sur le cœur de ville, faire de la mixité sociale, c'est prendre les choses par l'autre bout et se dire, ben, on a des difficultés sociales dans le centre historique d'Agde, c'est une réalité que personne ne peut nier, sauf à se voiler la face, et on souhaite que d'autres personnes viennent y habiter pour justement que la diversité qui est toujours souhaitable puisse devenir une réalité plus tangible. Pour que cela soit possible, il faut notamment répondre à la question du stationnement. Mais si on attend de rencontrer un opérateur, que ce soit FDI ou un autre, qui nous propose une solution clé en main pour faire des logements, mais faire le nombre de stationnements correspondant à ce qui est demandé dans les autres quartiers de la ville, on n'aura jamais aucune opération en cœur de ville. Voilà. Donc là, il faut que... vous savez, c'est comme souvent on parle des lois qui sont faites à l'Assemblée et au Sénat, et qui sont adaptés à la vie parisienne, mais qui ne sont pas adaptés à beaucoup de territoires de notre pays. Eh bien là, c'est un peu dans ce schéma qu'il faut s'inscrire et se dire, sur la question du stationnement, qui devra être une question à laquelle une réponse devra être apportée, oublions les schémas qui prévalent pour le reste de la commune, parce que sans quoi, on n'y arrivera pas. Donc,
si dans la rédaction il avait été dit oui. La commune s'engage à rechercher des solutions à proximité ou pour réorganiser le.
Ouais,
ça me va, moi. Mais que ça, on ramène ça
au parking souterrain. C'est l'esprit qui nous anime.
Ouais,
mais bon, ça vous fait deux raisons de ne pas voter.
N'est-ce pas?
Mais cela dit, on recherchera les solutions conformément à l'esprit que nous partageons.
Non, mais là en plus, typiquement, sur ces deux îlots-là, on casse pas pour reconstruire. C'est vraiment de la rénovation. Donc les ABF, on va pas leur dire « on va vous détruire la façade pour faire des parkings ». Elle va moins rigoler. La seule chose que l'on fait, c'est qu'au contraire, quand on a la possibilité de détruire, ce qui est déjà le cas avec certitude pour une petite partie dans la rue de l'Amour, c'est qu'on en profite pour faire une place, justement, parce que ce sont des rues qui sont étroites et que les habitants et les gens qui circulent sont plutôt en demande d'avoir une petite place où on peut en mettre des chaises et se poser un peu. Donc là on n'est pas dans la déconstruction, reconstruction. Mais on a effectivement cette attention particulière sur les places.
On a entendu vos remarques et vos arguments, monsieur Dumont, ils seront pris en compte.
Raison, c'est un problème.
Allez, il nous faut avancer. Nous sommes à la moitié de l'ordre du jour. Donc, je mets aux voix le point 25. Y a-t-il des votes contre? Donc, si, madame Catanzano. Non, enfin, je vous oblige pas à voter contre, hein. Madame Varesano. Pardon? Non, justement, je n'étais pas sûr. Donc, qui vote contre? Ok. Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est donc approuvé à la majorité des votants. François, pour terminer,
c'est la dernière.
Déclaration d'utilité publique pour une opération de restauration immobilière sur 10 immeubles du centre-ville.
Requalification du cœur de ville toujours. Alors bon, on a des îlots avec le NPNRU, l'action cœur de ville, les sigles maintenant commencent à vous être familiers. On a le travail sur les commerces. Monsieur le maire, vous avez fait la tournée ce matin et je vous en remercie de le valoriser. Et puis on a tout le volet au PAERU dont on parle moins souvent ici, qui permet d'accompagner la rénovation de l'habitat privé pour des propriétaires, qu'ils soient occupants d'ailleurs ou qu'ils soient des propriétaires bailleurs qui mettent leur logement en location. Or, cependant, ben, parfois, il y a des gens qui ont des immeubles, qui devraient faire des rénovations, qui ont droit à des aides, mais qui ne les font pas. Donc, cette fois-ci, on ajoute en plus un moyen coercitif. Les premiers items, c'était ce sympa. Donc, c'est l'opération de restauration immobilière avec des déclarations d'utilité publique et donc des prescriptions de travaux qui sont associées. Et il s'agit sur les 10 immeubles que vous avez dans la liste, qui sont 10 immeubles du cœur de ville, de demander aux propriétaires de faire les travaux. Ils ont les aides pour cela, évidemment, dans le cadre de l'OPA RU. S'ils ne souhaitent pas les faire, ils ont la possibilité de vendre à un tiers qui aura l'obligation de les faire. Et si l'un ni l'autre ne veut le faire, le PF va récupérer pour le compte de la ville ces logements avec une phase administrative du préfet, puis une phase judiciaire où le prix sera déterminé. Donc il s'agit d'approuver le lancement de la procédure et la transmission à monsieur le préfet de ces 10 adresses qui sont concernées.
Très bien, merci monsieur Perea. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas de main qui se lève, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Aucune. Je vous remercie, c'est approuvé à l'unanimité. Merci monsieur Perea. Monsieur Glomont maintenant, question 27, pôle d'échange multimodal de la gare d'Agde. Il s'agit de la présentation de la convention relative au financement des travaux de libération et de relogement d'une brigade SNCF. Voilà, c'est donc l'une des phases du vaste chantier qui nous attend dès cet automne. Monsieur Glomont.
Merci, monsieur le maire. La CAM pilote le projet de PEM de la gare d'Agde dans le cadre de sa politique de revitalisation du centre-ville d'Agde, en partenariat avec l'État, la région Occitanie, le département de l'Hérault, la ville d'Agde et la SNCF. Au regard des études réalisées par la SNCF, une opération de travaux pour la libération du domaine ferroviaire s'avérait nécessaire. Une première proposition de convention de financement avait été proposée en 2024 et délibérée en juin 2024 par la ville d'Agde et la communauté d'agglomération. En raison de la baisse du coût prévisionnel des travaux visés par cette convention à hauteur de 135 000 euros, du désistement courant 2024 du département dans le financement de l'opération, cette convention est devenue caduque. Il est proposé un nouveau projet de convention de financement pour cette phase 3 des travaux. Le plan de financement proposé par le projet de convention joint à la présente délibération prévoit une participation financière de 20% de la ville d'Agde, ce qui correspond à un montant de 27 000 euros. Considérant cet exposé, le conseil municipal est invité à prendre acte de l'abandon de la convention de financement du 20 juin 2024 et à approuver la nouvelle convention de financement.
Très bien. Merci, monsieur Glomont. Cette délibération a fait l'objet d'un vote en conseil d'agglomération. Y a-t-il des remarques? Des demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. C'est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Question 28. Renonciation au jeu de l'accession à la propriété et confirmation de la création d'un droit de superficie sur les parcelles cadastrées correspondant à l'indivision Père, avenue de la Jetée, donc zone technique portuaire au Cap d'Agde. Monsieur Glomont.
Oui, effectivement, c'est une renonciation au jeu de l'accession à la propriété. La commune a vendu à la société Lactalis, et non pas Lactalis, à monsieur et madame Peyre, les parcelles cadastrées, les quatre parcelles suivantes, la 024, 25, 104 et 106, pour des superficies de 582 mètres, 580 mètres, 575 et 207 mètres. Cette vente conclue au prix de 344 550 a été formalisée par un acte reçu par maître Marbach, notaire à Pérol, le 15 juin 2023. Pour mémoire, ces parcelles non bâties situées dans la zone technique portuaire étaient louées à l'origine par la commune d'Agde, puis ensuite par la Sodéal, au profit de M. Gaston Peyre, au terme d'un bail commercial en date du 21 février 1983. Monsieur Gaston Peyre et son épouse, Madame Vernet, Arlette, ont édifié sur ces terrains un ensemble de locaux à usage de négoce de bateaux. Or, au terme du bail initial, les parties ont entendu faire définitivement obstacle au jeu de l'accession à la propriété, ce qui a eu pour effet de créer un droit de superficie à la propriété du sol et a été ainsi durablement dissocié de celle du bâti. La vente du 15 juin 2023 mentionna bien cette particularité. Néanmoins, pour des raisons de formalité à la publicité foncière et à l'occasion de la succession de M. Peyre, il apparaît nécessaire de formaliser par un acte authentique et distinct la renonciation de la commune au jeu de l'accession à la propriété.
Ouais, c'est un besoin de clarification d'ordre juridique. Ouais. Bon, est-ce que cela appelle des questions? Non. Merci, monsieur Glomont. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. C'est approuvé à l'unanimité. Merci.
Question 29, toujours Rémi, cession du lot volume 2 de l'ensemble immobilier cadastré section LD 94 et constitution de servitude. On est rue de la Placette.
Oui, c'est une régularisation. Hein. La commune est devenue propriétaire de l'immeuble cadastré section LD numéro 094 situé au 14 rue de la Placette à la suite d'une procédure de bien vacant formalisée par un acte authentique en date du 16 avril 2019. La représentation en deux dimensions du cadastre ne permet pas, en l'état, de retranscrire la réalité de la propriété. Il s'agit d'un porche sous une habitation. Il a été ainsi demandé à un cabinet de géomètre d'établir un état descriptif de division des volumes pour distinguer les différentes propriétés et ainsi régulariser une situation non conforme. Sur la base de cet état descriptif, il est désormais possible de distinguer deux volumes distincts au sein de l'immeuble. Le volume 1 correspond au porche et à la cour. Le volume 2 correspond à l'habitation en R+1 et R+2. Le lot volume 2 a dès lors vocation à être cédé à Mme Sanchez-Marise, épouse Rogie, qui en est l'occupante de fait. Par ailleurs, l'accès à l'habitation se fait par un escalier situé sur la parcelle communale. Il apparaît opportun de prévoir la constitution d'une servitude de passage sur la dite parcelle au profit du lot numéro 2 de l'ensemble immobilier.
Merci. Je pense que nous serons de plus en plus souvent amenés à prendre des délibérations qui ont un caractère très juridique dans la suite et dans la tendance de l'évolution de notre société. Voilà donc un exemple de celle-ci. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Merci Rémi. Je passe la parole maintenant à Sylvian Vial pour les questions 30 et 31. Tout d'abord, l'acquisition de la parcelle cadastrée MT454 au chemin calme.
Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit de Monsieur Atienza et Madame Vidal-Biono, d'un élargissement de chemin de calme qui représente une parcelle de 22 mètres carrés. Pris à 10 euros par mètre carré, soit 220 euros. Et il y a une prise en charge des raccordements au réseau humide.
Très bien, ce qui est mentionné en effet dans le corps de la délibération. Donc 220 euros. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est approuvé à l'unanimité. Toujours Sylvian, acquisition de la parcelle MO174, chemin du Grand Kyste cette fois-ci.
Oui, et c'est monsieur et madame Ribeiro. Élargissement du chemin du Grand Kyste, parcelle de 51 mètres carrés, prix à 10 euros par mètre carré, soit 510 euros, et il n'y aura pas de travaux.
Ok, donc sur la base de l'estimation de France Domaine, y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Je mets aux voix, y a-t-il. Voilà, vous pouvez constater, enfin voir où se trouve la parcelle en question, objet de l'alignement. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. C'est approuvé à l'unanimité. Merci, Monsieur Vial. Madame Vibarel, pour la convention. Alors, attendez, aidez-moi. PED.
Le renouvellement du PEDT.
Ouais, mais PEDT, c'est
Projet éducatif territorial.
Projet éducatif territorial. C'est bien mieux comme ça. Nous vous écoutons.
La ville d'Agde s'est dotée en 2018 d'un projet éducatif territorial, donc PEDT, et d'un plan mercredi pour une période de 3 ans. Ce plan a été renouvelé une première fois et le PEDT 2022-2025 arrive aujourd'hui à son terme. Ce PEDT formalise une démarche permettant aux collectivités volontaires de proposer un parcours éducatif de qualité avant, pendant et après l'école. Il organise de plus la complémentarité des temps éducatifs et fixe les principes et objectifs attendus en matière éducative. Considérant l'évaluation positive des PEDT précédents, la participation active des partenaires institutionnels, associatifs et éducatifs, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le nouveau PEDT et le plan mercredi pour la période 2025-2029.
Merci Madame Vibarel. Je vous remercie pour l'action qui est engagée en direction de nos petits. Je remercie également tous les membres de la communauté éducative parce que nous avons la chance d'avoir à Agde un ensemble de dispositifs qui nous permettent d'accompagner aussi bien qu'il est possible de le faire. Enfin, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas avec beaucoup d'outils mis à notre disposition, les enfants qui habitent à Agde. Alors évidemment, on pousse auprès du ministère pour obtenir un classement qui tarde à venir, qu'on espère obtenir un jour afin d'être doté de moyens encore supplémentaires. Mais d'ores et déjà, la ville a su, avec la communauté éducative, mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui sont au bénéfice des petits agathois. Donc, ce qui est tout à fait louable et ce dont nous devons nous féliciter, non pas pour tirer une gloire, mais pour nous dire que nous agissons au service de la génération qui vient derrière nous. Y a-t-il des demandes de précision ou des demandes de prise de parole ? Non. Je mets aux voix le rapport 32 qui vient d'être présenté par Mme Vibarel, un projet éducatif territorial, donc pour 2025-2029. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas, c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Madame Perret, vous avez la parole pour la présentation du rapport 33. Il s'agit de la convention programme Vivons en forme.
Merci, Monsieur le maire. Depuis 2010, la ville d'Agde a adhéré au programme de prévention santé Vivons en forme qui a pour objectif d'aider les familles à modifier durablement leurs habitudes en matière d'alimentation et d'activité physique. Donc, c'est un programme national de lutte contre l'obésité infantile qui est coordonné et animé par l'association FLVS. Donc, afin de continuer à prévenir le surpoids des enfants et à contribuer à améliorer leur santé, la ville d'Agde souhaite se réengager. Donc, c'est un renouvellement de convention dans ce programme de santé, donc public, pour une durée de 5 ans, pour un coût annuel de 3 000 euros.
Merci beaucoup, Sylviane. Ouais, moi, je suis toujours frappé, c'est malheureux de voir que les enfants des milieux sociaux les plus défavorisés sont aussi ceux qui souffrent le plus d'une malnutrition, d'une mauvaise nutrition. Et par conséquent, peuvent être victimes justement d'obésité ou de maladies liées. Donc il est important que nous leur donnions une chance de surmonter ces difficultés supplémentaires. Donc y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas, c'est approuvé à l'unanimité. Merci Madame Perret. Madame Mathia, vous avez la parole pour les rapports 34 et 35. La question 34 concerne la convention de délégation de gestion du Fonds départemental d'aide aux jeunes.
Ah, d'accord.
Non, ce n'est pas dans cet ordre-là que vous les aviez.
Pas dans cet ordre-là, pas de souci. Donc, le Fonds départemental d'aide aux jeunes, FDAJ, est un dispositif d'aide de droit commun destiné à faciliter l'insertion professionnelle et sociale des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Il vise à apporter des secours financiers exceptionnels pour faire face à des besoins urgents, accorder des aides financières pour faciliter la réalisation de projets d'insertion, proposer des mesures d'accompagnement individualisées, financer des actions d'accompagnement collectif, et dans ce cas-là, les jeunes de 16 à 18 ans peuvent aussi être concernés. Le 25 mars 2025, la commission permanente du Conseil départemental de l'Hérault a adopté la convention relative à l'approvisionnement des fonds d'UNSEM pour un montant total de 18 038 euros, financé aux deux tiers par le département et un tiers par la commune, soit 12 025 pour le Conseil départemental et 6 013 pour la commune. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention 2025 de délégation de gestion qui nous lie au Conseil départemental, puis de confier la gestion de ce fonds au CCAS, bien sûr sans oublier de reverser la dotation allouée par le Conseil départemental, ainsi que la participation de la ville, soit un total de 18 038.
Merci Madame Mathia. Alors là, nous sommes vraiment dans le domaine de Madame Mathia.
Voilà.
Donc s'il y a une question, c'est Marie-Hélène qui va vous y répondre, puisqu'elle s'acquitte fort bien de cette mission. Quelqu'un ose-t-il se frotter donc à l'expertise de Madame Mathia ?
Non.
Pas de questions ? Merci Marie-Hélène. Alors pour ce premier rapport, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Rapport 35, chantier d'insertion en partenariat avec le plan local pour l'insertion et l'emploi et l'association Le Passe-Muraille.
D'accord. Alors, depuis 2012, la ville participe à la mise en place des chantiers d'insertion développés par le PLI, plan local d'insertion et d'emploi, service de la communauté d'agglo Hérault-Méditerranée qui, dans le cadre de sa compétence politique de la ville, s'inscrit dans une démarche de lutte contre le chômage et de retour à l'activité et à l'insertion professionnelle. Ce chantier d'insertion a été confié à l'association Passe-Muraille, a débuté le 2 janvier 2025 pour un minimum de 12 salariés qui ont un CDDI, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée d'insertion, de 4 mois, renouvelable ou pas. En 2025, des travaux ont été effectués déjà, puisqu'on est en juillet, sur divers sites de la commune d'Agde. Il y a eu construction de 6 bureaux en bois pour le centre social Entraide rue Chassefière. Il y a eu au Palais des Sports une transformation de cellules de stockage qui est un peu à tous les vents en box individuelle fermée. Le muret du môle, il y a eu un décroutage et un rejointement. La fontaine de l'Escargot, un aménagement paysager, puisque cette fontaine n'était plus en service. À l'école Jules Ferry, qui doit se faire ou qui s'est peut-être fait de là en juillet, un aménagement d'assises autour des arbres. Et puis le grand chantier des Verdis, où il y a des réaménagements de puits, de restauration, de construction de mazets et de construction de clôtures en dur.
Merci beaucoup, Marie-Hélène. Ce sont des chantiers qui alors permettent de mettre en selle, de mettre le pied à l'étrier à des publics qui ont pu rencontrer des difficultés. Il s'agit d'insertion. Ça permet aussi d'accompagner les efforts réalisés par les services de la ville, pour donner une suite le plus souvent possible favorable aux demandes de nos amis agatois. Et donc, moi, je suis très heureux. Alors, j'ai l'occasion parfois d'aller avec Marie-Hélène constater le travail qui est fait sur les différents chantiers. Il est toujours de très bonne qualité parce que l'encadrement est particulièrement professionnel. Donc moi, je souhaite remercier, féliciter, bien sûr, Marie-Hélène, mais les associations qui encadrent ces jeunes et ces jeunes qui font un travail souvent de très, très bonne qualité. Et donc, on a l'occasion de vérifier. Certains auront toujours des commentaires peu agréables à faire. Je pense notamment à la fontaine qui n'était plus en service depuis une vingtaine d'années. Ouais. Aujourd'hui, certains trouvent à redire qu'on l'ait plantée. Ben, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. De la même manière, ces jeunes ont travaillé sur le mur qui protège le parking, le boulodrome du môle des envols de sable. Le travail a été bien fait. On l'a encore constaté pas plus tard qu'hier. Et bien d'autres chantiers accompagnent la dynamique engagée par la ville. Donc merci Marie-Hélène, et merci aux associations, et merci aux jeunes gens qui travaillent au service des agatois. Alors, jeunes et moins jeunes.
Jeunes et moins jeunes,
hein, parce qu'on a souvent tendance à résumer, à catégoriser. Il n'y a pas que des jeunes.
Sur les chantiers citoyens où il y a des jeunes, mais pas le...
Mais pas exclusivement.
Il y en a entre, sur 12, il y en a entre 2 et 4.
D'accord.
Voilà.
OK. Y a-t-il des questions ?
Non.
Tout le monde te craint. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Alors, on va entrer dans un chapitre rapport. Donc, et c'est Monsieur Toureau qui s'y colle. Question 36, état des travaux 2024 de la Commission consultative des services publics locaux. Monsieur Toureau, nous vous écoutons.
Merci, Monsieur le maire. L'article L413-1 du CGCT précise que le président de la Commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par la Commission au cours de l'année précédente. En résumé, la Commission s'est réunie 5 fois en 2024 pour traiter un total de 16 dossiers, dont 10 rapports annuels des délégataires et un lancement de procédure de concession de services publics pour la gestion des arènes du Cap. Dans le double objectif de transparence et d'efficience de la participation des usagers à la vie des services publics, le Conseil municipal a adopté le règlement intérieur de la Commission lors de la désignation de ses nouveaux membres le 20 juin 2024. Ce règlement intérieur précise notamment le rôle et le fonctionnement de la Commission et confirme les compétences supplémentaires que la ville d'Agde a souhaité lui accorder, à savoir l'avis sur tout projet d'avenant aux concessions de services publics et aux contrats de partenariat. Pour 2024, ces compétences supplémentaires ont représenté plus de 30% du total des dossiers examinés par la Commission. Le conseil municipal est invité à en prendre acte.
Merci, Monsieur Toureau. Cela appelle-t-il des remarques ou des questions? Je tiens à saluer le travail qui est fait par Monsieur Toureau. Je tiens aussi à remercier les membres qui siègent au sein de la Commission consultative des services publics locaux, qui sont des élus, mais aussi des personnalités qualifiées qui ont été désignées par notre instance et qui viennent contribuer au débat et aux échanges que nous avons au sein de cette instance. Donc, nous n'avons pas à voter, il nous faut prendre acte. Monsieur Toureau, vous conservez la parole. Question 37, il s'agit du rapport 2023-2024 des concessionnaires de services publics, en l'occurrence la DSP d'exploitation du casino du Cap d'Agde.
Chaque année, tout concessionnaire doit produire un rapport permettant à la collectivité d'apprécier des conditions d'exécution du service public. La société anonyme Casino du Cap d'Agde a ainsi transmis son rapport annuel 2023-2024. Pour rappel, la concession a une durée de 20 ans, courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2036. La totalité du rapport est présentée en annexe de la présente délibération. Il fait ressortir que, pour la première fois depuis le déménagement, la fréquentation du casino est en baisse, moins 3,17%, avec 230 243 entrées. Les résultats comptables restent cependant solides, portés par le produit brut des jeux sur les machines à sous, près de 15 millions d'euros, qui reste le principal contributeur, 84,6% du chiffre d'affaires brut total. Malgré un secteur de plus en plus concurrentiel, sites illégaux en ligne et loi d'élargissement du 14 décembre 2023, les perspectives d'évolution sur Agde restent cependant positives pour les années à venir avec la dynamisation du quartier iconique qui se poursuit, ainsi que le projet de digitalisation développé au sein du groupe. Le conseil municipal est appelé à prendre acte de ce rapport.
Voilà, vous avez fort bien relaté les échanges qui ont eu lieu en commission consultative des services publics locaux, puisqu'il nous a été fait état d'une baisse de fréquentation, mais pour autant d'une augmentation du chiffre d'affaires. Donc on voit bien, c'est ce qui nous a été expliqué par les représentants de la société, que le monde des casinotiers est lui aussi, comme beaucoup d'autres sociétés par ailleurs, en phase de mutation et d'évolution, et qu'il lui faudra s'adapter pour rester concurrentiel, non pas uniquement des autres casinos qui sont sur le littoral de la région Languedoc-Roussillon, mais de nouveaux modes de consommation de ces jeux, notamment maintenant via Internet. Voilà. Donc une évolution est engagée au casino de s'adapter. Y a-t-il des questions ? Non, je n'ai pas à mettre aux voix. Nous en prenons acte. Merci pour le rapport 38. C'est toujours vous, Monsieur Toureau, pour la concession de services publics pour la distribution publique du gaz naturel. C'était 2024.
Le Conseil municipal a, par délibération en date du 25 septembre 2014, attribué à GRDF la concession de distribution publique de gaz naturel pour une durée de 30 ans à compter du 1er décembre 2014. En application de l'article 31 du traité de concession, la société GRDF a transmis à la ville le compte-rendu de l'activité de la concession au titre de l'année 2024, joint en annexe à la présente délibération. Le rapport fait apparaître la poursuite de la baisse tendancielle de l'activité, mais un compte d'exploitation de la concession qui se stabilise, bénéficiant toujours de la péréquation nationale. Les investissements 2024 restent importants, compte tenu de la densité du réseau agatois. L'effet de ciseaux observé ces dernières années entre des recettes en baisse et des coûts de maintenance incompressibles a pu être jugulé par une hausse importante des tarifs de distribution au 1er juillet 2024, plus 27%. Ce tarif ATRD7, couvrant la période 2024-2027, fait l'objet d'une nouvelle hausse au 1er juillet 2025 de plus 6,1%, affectant en moyenne les factures de gaz de 1,4%. Ce rapport d'activité a été présenté pour avis à la CCSPL. Le Conseil municipal est appelé à en prendre acte.
Merci beaucoup, Monsieur Toureau. Cela appelle-t-il des remarques, des questions ou des commentaires ? Non ? Nous en prenons acte. Merci beaucoup, Monsieur Toureau, pour la présentation de ces trois rapports.
Deux autres sont encore à, devront être encore présentés, mais je vais demander pour le suivant à Monsieur Glomo de le présenter, puisqu'il est en rapport avec les plages qui font partie de cette délégation. Et ensuite, ce sera Madame Vibarel qui présentera la, le rapport relatif au, à la concession de services publics pour la restauration collective. Tout d'abord, Monsieur Glomo.
Merci, Monsieur le maire. Le rapport présenté à l'Assemblée délibérante correspond au compte rendu d'activité de la concession de plage État-commune au titre de l'année 2024. Les éléments marquants de cette première année de concession sont les suivants. La signature le 27 mai 2024 par l'arrêté préfectoral octroyant à la commune la concession des plages naturelles pour une durée de 10 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2033. Début du montage des lots de plage le 28 mai 2024 et ouverture des lots de plage à partir de la fin juin. Lors de l'enquête publique pour l'attribution de la concession de plage, le commissaire enquêteur a recommandé la diminution du nombre de lots de plage. Ainsi, la ville a décidé de supprimer le lot numéro 4 situé sur la plage de la Roquilla. La répartition est donc la suivante. Location de matériel avec activité accessoire de restauration, 9 lots. Location de matériel avec activité accessoire de buvette, 3 lots. Location de matériel avec vente de glace et boissons conditionnées, 1 lot. Jeux d'enfants avec activité accessoire, 1 lot. Location de matériel avec sensibilisation à la nature, 1 lot. Compte tenu de la période d'ouverture des lots de plage en 2024, le conseil municipal a approuvé une diminution du montant des redevances d'occupation des redevances au titre de l'année 2024. Location de matériel avec activité accessoire de restauration, 31 439 au lieu de 46 700. Location de matériel avec activité accessoire de buvette, 17 975 euros au lieu de 26 700. Location de matériel avec vente de glace et boissons conditionnées, 8 550 au lieu de 12 700. Jeux d'enfants avec activité accessoire et buvette, 4 780 au lieu de 7 100. Et location de matériel avec sensibilisation à la nature, 1 346 au lieu de 2 000. Le titulaire du lot de plage numéro 16 a pris la décision de ne pas exploiter le lot de plage. La ville a tout de même appliqué la redevance d'occupation pour l'année 2024. Chaque titulaire d'une convention d'exploitation a transmis son rapport d'activité et son compte d'exploitation. Les conventions d'exploitation des lots de plage précisent désormais que les lots de plage présentant un résultat d'exploitation positif sont assujettis à une redevance variable dont le pourcentage a été défini par les candidats lors de l'appel d'offres. La redevance d'occupation payée par la ville à l'État a été de 1 000 euros. Ce montant correspond aux nouvelles dispositions du cahier des charges. Voilà les points essentiels du compte rendu d'activité.
Dont il nous faut prendre acte, donc à moins qu'il y ait une demande de prise de parole auparavant. Madame Barrezano, je vous en prie.
Merci, monsieur le maire. Ce rapport révèle un chiffre de plus d'un million d'euros de déficit. Comment l'expliquez-vous ? Avez-vous peut-être une réforme du modèle agatois ? Quelle est votre stratégie de gestion des plages ? D'autre part, dans le rapport, Delot affiche exactement le même résultat.
Nous vous écoutons.
Est-ce que c'est une erreur de frappe ou est-ce que c'est une coïncidence ?
Ben, du tout, c'est un service public. En fait, c'est la concession de plage État-Ville d'Agde. Donc les moins 1 million d'euros, comme vous dites, ça correspond à l'ensemble des frais de personnel à hauteur de 740 000 euros, l'ensemble du personnel qui œuvre sur les plages tout au long de l'année. Ça correspond à la surveillance des plages, à l'enveloppe dédiée à la surveillance des plages à hauteur de 345 000 euros. Ça correspond à la sécurisation de la Grande Conque à hauteur de 69 000 euros. Ça correspond aux travaux des postes de secours pour un montant de 40 000 euros tout au long de l'année. Et ensuite, c'est la procédure de renouvellement de la concession pour un montant de 39 000 euros. Ce qui fait 1 385 plus moins les recettes que nous avons vues à hauteur de 347 000 euros.
C'est voilà bien ça, montant. Donc un déficit d'un million d'euros.
C'est un service public.
J'ai bien compris. Maintenant, des villes comme Palavas, elles arrivent à avoir un budget à l'équilibre.
C'est pas possible.
Donc c'est pour ça...
C'est pas possible, le personnel ne peut pas équilibrer, rien que le personnel.
Alors, je ne connais pas leur mode de gestion.
Ben, si. Non, mais c'est possible, mais sauf que.
Je ne sais pas.
Il y a soit, il n'y a pas
vous
de.
Vous pouvez peut-être, d'où ma question, avez-vous une stratégie ou d'autres
non,
choses?
Non, mais on considère que, l'équilibre auquel il y fait référence là, qui accuse un déficit, correspond à une stratégie que nous voulons maintenir. À vouloir le modifier, de deux choses l'une, soit on réduit le niveau des dépenses qui est le nôtre et qui va affecter la qualité de l'entretien de nos plages, soit on...
ou de surveillance, bien évidemment, mais on ne peut évidemment pas transiger avec la sécurité de la baignade, surtout que l'on voit que cette année, pas à Agde, et je veux toucher du bois, mais sur le littoral héraulté, le nombre de baignades, de noyades est en très forte augmentation, malheureusement. Ouais, voilà, on a déjà dépassé le nombre de noyades enregistrées l'année dernière. C'est un drame, parce que bon, la température de l'eau, l'inconscience des gens, des effets climatiques face auxquels il faut rester modeste, font que il y a eu beaucoup de noyades d'ores et déjà cette année. Donc, soit on réduit le niveau des dépenses qui sont les nôtres, et cela ne sera pas le cas, parce que nous devons continuer d'assurer la sécurité des baigneurs et la propreté de nos 14 km de plage, soit on augmente le niveau, encore que je dis ça, mais ce n'est pas possible, puisqu'on a délibéré pour fixer un niveau de redevance acquitté par les concessionnaires de plage, et qu'on considère qu'il est préférable de maintenir un niveau de redevance équilibré pour que ces mêmes concessionnaires, qui sont des acteurs économiques de la destination tourisme Cap d'Agde Méditerranée, investissent. Voilà. Donc il y a en effet un déficit rapporté au fonctionnement des plages qui est de l'ordre de 1 million d'euros. Pour autant, on considère que nos 14 km de plage et les établissements qui y sont installés rapportent énormément à la destination qui est la nôtre.
Monsieur le maire, juste, je vais préciser une chose pour un domaine que je connais, Rémi aussi. En France, il y a un principe de gratuité des secours, madame Varezano.
Oui.
Donc, ce que coûte que vous mettiez les pompiers, la SNSM, n'importe quoi, vous ne pouvez pas facturer derrière. La ville ne peut pas facturer à quelqu'un les soins qu'elle fait ou les personnes qui sont secourues.
Donc, ça coûte de l'argent. Ce n'était pas ma question.
Ben si, parce que vous dites qu'il y a un déficit. Non, il n'y a pas de déficit.
Oui, mais vous m'avez expliqué d'où il provenait. Et pour une fois, j'ai eu des chiffres précis.
Madame,
je vous en remercie.
Les 400 000 euros que vous mettez, vous ne les récupérez jamais. Vous n'avez pas facturé à chaque fois que vous allez faire un secours.
Eh ben, je vais aller regarder avec plus de précision comment fait Palavas, parce que ça peut peut-être être intéressant.
Attention, je ne veux
à aucun moment remettre en question la sécurité de nos baigneurs, évidemment.
Monsieur le directeur, maintenant, dit que lui, à connaissance, je ne le savais pas, donc je vous livre l'information qu'il me communique. Par exemple, à Palavas, si vous ne constatez pas un déficit comme c'est le cas ici, c'est que tout simplement l'entretien des plages n'est pas l'affaire de la commune, mais de l'intercommunalité. Donc la charge est à la communauté d'agglomération. Pour autant, elle existe aussi. Donc j'imagine que si vous rapportez les 750 000 euros que nous coûte l'entretien des plages, eh bien, on aura un résultat peut-être à peu près équivalent à... Voilà, vous irez certainement le vérifier. Mais en tout cas, voilà, ce qui m'a indiqué par M. Yvain, c'est que dans d'autres territoires, la répartition n'est pas la même, mais que l'entretien ou la sécurité sont du fait sont à la charge de la communauté d'agro. Mais au final, le résultat est le même.
Oui. Alors, pardon, j'avais pas terminé.
Oui.
Sur mon intervention. Donc, il y a deux lots qui affichent le même résultat, exactement la même somme. C'est normal. C'est une coïncidence. Bon, on s'en fiche.
Bah non, ce sont les résultats qui sont présentés par les exploitants.
Pardon ?
C'est les résultats qui nous ont été présentés par les exploitants.
C'était peut-être une erreur de frappe, je ne sais pas, je vous posais la question. Parce qu'il y en a eu ce soir, on s'est rendu compte parfois qu'il y avait des éléments qui... C'est possible, bon, c'est gentil. Et je vois aussi que la SAS Bunet Club ne transmet pas son résultat. Depuis. Bah, il n'est pas indiqué sur le rapport.
Sous couvert de M. Dubois, mais on l'a ressollicité récemment et ça y est, ça nous est parvenu.
Bon, voilà, donc, vous voyez, ça, c'est pareil, on ne peut pas le deviner.
Non, mais vous faites bien de poser la question.
Vous savez, on n'est pas hermétique à discuter ensemble avant le conseil municipal. Je vous l'ai déjà proposé. Vous n'êtes jamais revenu vers nous.
Je reçois des délibérations 5 jours avant. Normalement, elles sont à jour. Non ?
Si vous voulez.
Si ça s'est passé.
En tout cas, notez.
Nous avons quand même 1193 pages à étudier en 5 jours. Donc, permettez-moi de ne pas avoir le temps de revenir vers vous.
Madame Barrezano, oui. Vous êtes parfaitement en droit de poser des questions. On essaie d'y répondre avec les éléments d'information que nous connaissons au moment où vous nous interrogez.
Je vous remercie. Voilà. Ben voilà, donc ben ce serait bien de nous en faire part, alors, si vous l'avez, ce chiffre.
Et je me réjouis que nous ayons obtenu justement tous les rapports des délégataires, chose qui n'a pas toujours été simple, mais que nous avons obtenu pour la présentation du rapport, moyennant, enfin, ou sous réserve, voilà, que vous soit communiqué par M. Glomo dès demain à la première heure le résultat de la concession dont le résultat manquait. Voilà.
Sauf ceux des campings.
Non, mais là, je parle des plages. Oui. Ouais, ouais. Oui. Madame Barrezano.
Oui, j'ai une dernière chose. Cette même SAS, donc, que j'aurais condamnée si elle n'avait pas, transmis son rapport, eh bien, elle a été victime, en fait, de devoir retirer ses statues, ses décorations.
Ouais.
Ouais, voilà, vous êtes, je crois.
J'en ai été informé, ouais.
Voilà. Donc, ce sont en fait ces objets qui sont des vierges, ne relèvent pas du prosélytisme religieux, mais d'une décoration culturelle, et participer à l'identité du lieu. Donc, j'aurais souhaité savoir si, Monsieur le maire, vous avez essayé de défendre un petit peu...
Madame Barrezano,
oui.
Je suis... si ce que vous voulez savoir, c'est si je considère... que l'obligation qui a été faite à ce concessionnaire de retirer un objet qui pour certains avait une connotation religieuse, pour d'autres avait tout simplement un intérêt esthétique,
oui,
les deux d'ailleurs
ainsi.
Pouvant se conjuguer. Moi je trouve que dans notre pays on a bien d'autres priorités que celle-là. Voilà. Et je n'étais absolument pas heurté par je connais cet établissement comme je connais tous les autres, et la présence de cet objet ne me dérangeait en aucune manière. Je le dis très clairement, parce que il faut arrêter de se... Voilà, il y a des choses bien plus graves qu'il nous faut gérer dans notre pays. Bon, pour autant, vous le savez, le domaine public maritime sur lequel sont installées ces concessions, ces plages aménagées, font l'objet d'un regard très très attentif des services de l'État, qui ont exigé que cet objet soit retiré. Comme, par exemple, il nous est fait mention de l'impossibilité de mettre des palmiers sur nos plages. Franchement, moi, je vois des priorités ailleurs. Et je ne vois pas pourquoi on irait embêter des chefs d'entreprise qui font tourner des sociétés, des services commerciaux en l'occurrence, mais qui servent l'intérêt de la destination Cap d'Agde Méditerranée. Donc je pense que nous sommes d'accord sur ce point. Et
oui, c'est dommage, puisque c'était réellement des
mais bien
éléments
sûr que
décoratifs.
C'est dommage. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est dommage. Mais c'est pas qu'on cède, c'est que l'État a dit, voilà, ce n'est pas autorisé. Et moi, je ne peux pas dire à l'État...
Vous ne pensez pas que ça peut être arbitraire? Vous ne pouvez pas dépenser, essayer de...
Non, l'État refuse qu'il y ait ce type d'objet sur une concession par quelques associations, que l'on connaît. C'est dommage. En effet, il y a des choses bien plus importantes que celle-là. Et en plus, avoir un objet qui a une connotation religieuse, ça ne me choque pas. Monsieur Ivars a demandé la parole.
Oui, merci, monsieur le maire. Juste une petite précision pour les postes de secours de Palavas. Ils sont ouverts que 2 mois, du 28 juin au 31 août. C'est la SNSM qui les gère.
Ouais.
Donc voilà, c'est pas la même configuration. Il n'y a que 6 postes.
Voilà, nous en avons 12, en effet. Merci de faire cette remarque. Nous en avons 12. Ce sont des sapeurs, 51 agents recrutés par le SDIS 34, financés par la commune d'Agde, pour 12 postes qui fait de notre commune la commune qui est la mieux dotée en termes de surveillance de baignade. Voilà, donc évidemment, ça a un coût, mais je n'ose pas dire que... C'est pour ça que pour l'instant, on est passé à côté de drames, parce que des drames peuvent se produire sur notre commune, malheureusement. Donc soyons très, très humbles face à la nature. Mais en tout cas, nous avons un dispositif de surveillance et de sécurité qui est des plus importants, surtout le littoral. Voilà.
il a un coût. Et je suis persuadé qu'ici, personne ne le remettra en cause. Il nous faut prendre acte de ce rapport. Je passe la parole maintenant à Madame Vibarel pour le rapport 2023-2024 relatif à la concession de services publics pour la restauration collective.
Merci, Monsieur le maire. Donc, ce contrat de concession a pris effet le 6 juillet 2019 et s'est terminé le 6 juillet 2024. Il ressort de l'année scolaire 2023-2024 que l'activité poursuit légèrement son redressement, mais ne permet toujours pas de retrouver des comptes d'exploitation à l'équilibre. Les effectifs pour l'année ont représenté 272 047 repas, en augmentation par rapport à l'année précédente, hein, 2067 44 repas. Ils sont en hausse par rapport à l'année précédente de presque 2%, mais restent encore en dessous de l'exercice de référence 2018-2019. Le compte d'exploitation fait apparaître un déficit de 160 505 euros pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 530 000 euros, malgré les différents ajustements opérés au contrat de concession. On constate également une forte hausse des taux d'impayés chez les scolaires, passant de 5% à plus de 11%. Les engagements sur l'alimentation durable ont pu être tenus, ainsi que ceux en termes de maintenance et de renouvellement technique. Les analyses bactériologiques ont été pratiquées, que ce soit sur la cuisine centrale ou sur les offices. Enfin, 10 commissions de restauration ont été réunies sur l'année et 21 animations et actions pédagogiques ont été réalisées tout le long de cette année.
Merci.
Voilà, il s'agit de prendre acte.
Merci, Madame Vibarel. Cela suscite-t-il des réactions? Non, votre exposé a été parfaitement clair. Donc, nous prenons acte de ce rapport. Merci. Nous revenons à François Perea pour le renouvellement des licences Vadesécur.
Eh oui, la licence de ce logiciel de sécurité informatique arrive à expiration à la fin du mois d'août. Il faut donc la renouveler. Et pour ce faire, adhérer à la centrale d'achat numérique et télécom, dont l'acronyme est CANU, pour la somme de 600 euros hors taxe par an, qui donne accès aux accords cadres.
Merci. Voilà qui est synthétique, qui, je pense, n'appellera pas beaucoup de réactions. Il y a... Donc, ce rapport doit-il être... Oui, il faut qu'on le vote. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, il est approuvé à l'unanimité. Merci. Le rapport 42, c'est moi qui le présente. Il est en lien avec l'avis de la du Conseil communautaire de la communauté d'agglomération Héro-Méditerranée. Nous devons anticiper la mise en place du futur Conseil communautaire qui prendra place après les élections municipales de 2026. Faute d'accord local, la composition de ce Conseil communautaire serait ramenée à 48 élus et déséquilibrant, ne permettant pas la représentation juste, équilibrée de toutes les communes de l'agglomération. Par conséquent, la fois précédente déjà et cette fois-ci encore, j'ai réuni les maires que j'ai réunis, en l'occurrence, se sont retrouvés pour rechercher ensemble les termes de ce que l'on appelle un accord local. C'est-à-dire qu'on resterait sur le même nombre de conseillers communautaires qu'actuellement et on redéfinit, enfin il y a différents scénarios qui nous sont proposés par un logiciel et parmi ces scénarios, il a fallu retenir celui qui nous semblait être le plus conforme à la juste représentation des 20 communes au sein du conseil communautaire. Donc, deux communes gagneront un siège. Il s'agit des communes de Pinet et de Pomerol. Merci. Et donc, deux devaient perdre un siège. Et nous sommes entendus pour que, avec l'accord des deux maires concernés, pour que les sièges qui seront cédés soient ceux, et c'était le cas d'une des simulations présentées, de la commune de Pesnas, qui perd de la population, et de la commune de Vias, qui jouissait d'une représentation que l'on peut considérer comme supérieure à celle des communes qui étaient juste derrière elle. Donc, Armand Rivière et Jordan Dartier je dirais même pas qu'ils ont accepté, ils ont proposé que ce soit leur commune qui voit leur représentation diminuer d'un siège, de manière à permettre, ce qui, de toute façon, pour les communes qui gagnaient un siège, n'était pas discutable. Dans tous les scénarios, il y avait ce gain pour ces deux communes qui sont en progression démographique. Mais je tiens à saluer vraiment le fair play et le sens des responsabilités des maires de Pézenas et de Vias, voilà, grâce à qui nous pourrons donc rester sur un accord local et assurer la plus large représentation des communes de notre agglomération au sein du Conseil communautaire. Donc il nous faut délibérer afin, comme toutes les autres communes de l'agglomération, valider cette proposition. Y a-t-il des questions ? Non ? Donc je mets aux voix, y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas, c'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Question 43, Thierry Villa va nous faire la présentation du rapport relatif à l'adoption des tarifs du centre nautique du Cap d'Agde.
Voilà, donc il s'agit des tarifs du centre nautique du Cap d'Agde 2025, dans le cadre de la reprise de l'activité par le service des sports de la ville. Ces tarifs concernent les prestations suivantes, formation et cours particuliers, location de matériel nautique, produits de la boutique, parking et mise à l'eau, club de voile à l'année, stage vacances, stage de groupe voile, licence, promotion et option. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter les tarifs tels qu'ils sont présentés dans l'annexe tarifs du centre nautique 2025 et transmettre la présente délibération au receveur principal.
Merci Monsieur Villa. Cela appelle-t-il des remarques, des questions ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est approuvé. Je vous remercie. Clémence Raffanel, nous revenons vers vous pour le rapport 44, convention d'occupation temporaire du domaine public pour la gestion des appontements et des emplacements sur les berges de l'Hérault.
Oui, merci Monsieur le maire. En effet, par délibération du 19 septembre 2024, nous avons approuvé le principe de remunicipalisation des services publics des ports, du centre nautique et des berges de l'Hérault. Dans le cadre de la convention d'occupation temporaire du domaine public, la SODL a conclu une série de contrats pour la location et l'exploitation des appontements et des emplacements. Il convient donc de procéder au transfert de ces contrats qui sont annexés à la présente délibération, afin que la ville se substitue à la SODL dans l'exécution de ces contrats et de permettre à la régie autonome de disposer des moyens nécessaires à l'exploitation du service.
Merci pour ces informations. Cela appelle-t-il des remarques ? Monsieur Figueras.
Oui, merci. Je voulais juste savoir où est-ce qu'on en est de cette remunicipalisation, parce que j'ai un peu de mal à suivre par rapport à toutes les délibérations, notamment celle qu'on vient d'avoir en papier, là, qui va se rajouter à la fin.
Oui.
Puisque vous avez acté donc au 1er juin la remunicipalisation, c'est en place.
La
donc,
résiliation du contrat, oui, la reprise de l'activité.
Par la régie. Donc depuis oui. Le 1er juin, c'est en régie.
Tout à fait.
D'accord. Parce qu'il est noté dans cette délibération-là que les opérations de remunicipalisation ne sont pas encore finalisées.
Oui.
Et il y a encore aujourd'hui des plaisanciers qui sont prélevés des redevances d'emplacement de bateaux par la SODEAL. Donc j'aimerais comprendre.
Non, c'est réglé, me dit-on. Monsieur Yvain me dit que c'est réglé.
Ah, je vous dis alors, que c'est pas réglé, monsieur.
Ben, il me dit que c'est réglé depuis 15 jours.
Ah ben donc, alors, il va falloir nous rembourser, parce que moi j'ai un prélèvement ce matin de la SODEAL. Donc c'est pour ça que j'aimerais comprendre, parce que je sais plus là.
D'accord. Et la confusion que vous faites, mais je comprends aussi la raison pour laquelle vous demandiez la transmission du rapport en question orale, c'est qu'il y a une part une partie qui est relative à la résiliation de la CSP et la reprise de l'activité de l'exploitation portuaire. Et il y a l'autre partie qui est partie intégrante de la remunicipalisation qui fait l'objet de la dissolution de la SODEAL qui interviendra avant la fin de l'année. Voilà. Et donc ceci fait l'objet d'une même procédure avec deux phases, certes, qui ont permis au 1er janvier de reprendre en régie l'activité... Pardon ? Oui, 1er juin, pardon. Oui, je dis tout le temps au 1er juin, vous avez raison.
Non, mais c'est surtout que la SODEAL continue de prélever les plaisanciers. C'est ce qui ce que je ne comprends pas.
Monsieur Yvain.
Il reste une situation qui est en train d'être gérée avec le Trésor public. C'est pour les paiements en 4 fois. Donc avec le paiement qui a eu lieu au 30 juin. Et à partir de là, il n'y aura plus de paiement pris en compte par la SODEAL. C'était ce qui avait
D'accord. Merci, Monsieur Yvain. Merci, Monsieur Figueras.
Je mets aux voix le rapport 44. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est approuvé. Je vous remercie. Monsieur Bonafou, question 45. Elle est relative à la gratuité du stationnement portuaire pour les bateaux affectés à des missions d'entretien, de maintenance et de sécurité.
Oui, merci, monsieur le maire. Donc, tout à fait. Donc, la délibération vise à accorder une exonération totale du stationnement des bateaux, appartements affectés à des missions de sécurité, de secours ou de prévention. Ça vise notamment donc les bateaux des services d'incendie et de secours, les bateaux du service des plages, les bateaux des postes de secours et les bateaux, les embarcations de la SNSM. Donc le bénéficiaire, c'est les services d'incendie et de secours, pompiers, services publics habilités et autres entités autorisées. Donc il demande au conseil municipal d'approuver cette délibération.
Donc cette gratuité nous semble en effet être de très bonne aloi. Donc est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Non, nous serons tous d'accord. Je n'ose imaginer le contraire. Donc, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie pour eux. Question 46. Madame Maerten, c'est vous qui avez le micro pour les quatre rapports qui suivent. Tout d'abord, le régime du personnel transféré dans le cadre de la reprise en régie des ports du Centre Nautique et des Berges de l'Hérault.
Merci, monsieur le maire. Concernant l'activité du centre nautique, le contrat qui a été proposé à chacun des salariés concernés devait reprendre les clauses substantielles du contrat de travail dont ils étaient titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Trois salariés ayant fait le choix d'être réaffectés à des postes au sein de la régie des ports, ce dispositif ne concerne qu'une seule personne désormais régie par le statut de la fonction publique territoriale et les règles en vigueur au sein de la collectivité. Concernant l'activité des ports, la reprise en régie d'un SPIC, service public industriel et commercial, implique le transfert des contrats de travail de droit privé au sein de la commune en application de l'article référent du Code du travail. Conformément aux dispositions de ce dernier et dans le cadre d'un tel transfert, le maintien des avantages unilatéraux ou des usages en vigueur dans l'entreprise cédante, la Sodéal, ne peut priver les salariés transférés des avantages qui s'appliquent dans l'entreprise cessionnaire, la commune. L'activité du SPIC relèvera de plein droit du champ d'application professionnel de la Convention collective nationale des personnels de port de plaisance, comme c'était le cas chez Sodéal. Concernant les salariés des ports, la présente délibération concrétise la volonté clairement affichée de maintenir des conditions de travail similaires. Il est proposé au Conseil municipal du maintien des accords collectifs du personnel des ports transférés, d'adopter le régime applicable au personnel des ports transférés décrit en annexe et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération.
Merci beaucoup, Madame Maerten. Y a-t-il des questions à ce propos? Madame Varezzano,
oui, merci,
vous en prie.
Est-ce qu'il serait possible d'avoir l'organigramme, s'il vous plaît, de...
Oui, l'organigramme, oui, bien sûr. Bien sûr, sans hésitation, oui, on va vous le communiquer.
Parce qu'on devait, je l'ai demandé par mail également, enfin, je vous l'ai demandé à plusieurs reprises.
On va vous le communiquer, il n'y a pas de problème, il a fait l'objet de l'avis du CST, donc on peut vous le communiquer.
Et alors, donc, je reviendrai peut-être lorsqu'on aura... Oui. Délibérera sur la dernière.
Bien sûr. Moi, je voudrais insister sur les explications qui viennent d'être données par Madame Maerten concernant le transfert des agents qui étaient Sodéal, qui sont désormais Ville d'Agde, et qui bénéficiaient de la convention collective des ports de plaisance. Nous avons souhaité qu'ils puissent continuer de bénéficier des conditions qu'elles prodiguent. Donc, cela fait l'objet d'un accord entre les personnels Sodéal et nous-mêmes. Simplement, une clause a été identifiée qui rend possible la renégociation durant les 18 mois faisant suite à la décision du transfert. Et donc, durant ces 18 mois, il serait possible de renégocier les conditions de travail des agents auxquels je fais référence. J'avais pris l'engagement devant eux, en votre nom, qu'au prochain conseil, au premier conseil municipal qui suivait la date du 1er juin, nous délibérerions afin de renoncer à cette clause de manière à les assurer que les conditions qui sont les leurs ne pourront plus être modifiées. Voilà, ça faisait partie des engagements que j'avais pris devant eux afin de leur apporter la quiétude qu'ils méritent.
Voilà, je voulais le souligner puisque c'était un point qui nous semblait important dans la relation qui existe entre nos collaborateurs et nous-mêmes. Donc, il nous faut délibérer concernant ce rapport présenté par Marion, le rapport 46. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est approuvé à l'unanimité. Marion, tu as la parole pour le rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes.
Comme chaque année, les communes de plus de 20 000 habitants doivent présenter un rapport annuel qui a pour but d'indiquer la politique ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Je vous donne juste quelques chiffres sur ce rapport que vous trouverez en annexe. Les femmes représentent 53% de l'effectif permanent de la collectivité. Elles restent majoritairement présentes dans les filières administratives, animation, culturelle et sociale. Les hommes sont majoritaires dans les filières techniques, sportives et sécurité. La répartition des femmes et des hommes au sein des catégories est relativement équilibrée et reste stable depuis 2022. On note une disparité de l'équilibre femmes-hommes dans l'encadrement des services, un taux d'absentéisme raisonnable si on le compare avec les communes de notre strate, un équilibre dans les perspectives d'avancement de grade entre les femmes et les hommes. Il est proposé de prendre acte de ce rapport.
Merci, merci Marion. Merci pour l'engagement qui est le tien. Dans le cadre de cette délégation, je le dis de temps en temps, passionnante mais complexe, qui nécessite beaucoup d'implication. La complexité aussi des questions que nous avons à traiter en matière de ressources humaines est grandissante. Moi, ce que je voudrais mettre en exergue du rapport dont tu viens de présenter la synthèse, c'est la tendance favorable, je parle de la tendance favorable qui traduit une sorte de rattrapage dans le décalage qu'il y a malheureusement entre la situation des femmes et des hommes pour des statuts identiques. Voilà. Donc l'écart est en train de diminuer grâce aux actions et aux décisions que nous sommes amenés à prendre. Bon, il y a encore un petit bout de chemin à faire, mais nous allons dans la bonne direction. Il s'agira d'y aller ensemble le plus rapidement possible. C'est un rapport, donc vous pouvez évidemment vous exprimer, mais nous n'aurons pas à le voter, mais simplement à en prendre acte. Donc y a-t-il des prises de parole, des demandes de prise de parole, pardon? Non. Donc nous en prenons acte ensemble. Marion, tu conserves la parole pour la mise en place des indemnités liées au maniement des fonds. Donc c'est ça, hein. Il oui, s'agit donc d'une question relative aux régisseurs.
Suite à la délibération du 22 mai dernier relative au régime indemnitaire des agents de la collectivité, il est nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective des indemnités de maniement des fonds d'en préciser les modalités de versement en reprenant notamment les taux définis par arrêté ministériel.
Merci. Y a-t-il des demandes de précision? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est approuvé à l'unanimité. Et enfin, Marion, modification du tableau des emplois.
Donc ça, c'est comme chaque conseil. Il est nécessaire de procéder à l'ajustement du tableau des emplois afin de permettre la suppression et la création de postes en fonction des mouvements de personnel, de l'évolution de carrière des agents municipaux suite aux avancements de grade et promotions internes, ainsi que le recrutement du directeur technique du Palais des Congrès.
Merci. Vous avez donc la liste, en effet, des postes concernés par cette modification du tableau des emplois. On a coutume de dire qu'il s'agit d'un toilettage. Nous le faisons aussi souvent que nécessaire afin d'avoir un tableau qui correspond à la réalité du fonctionnement de notre administration. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est approuvé à l'unanimité. Je dois vous faire le compte-rendu des décisions du maire, compte-rendu qui vous a été transmis. Il s'agit d'en prendre acte. Avez-vous des observations à formuler? Non, nous en prenons acte. Donc, deux questions diverses ont été inscrites sur ma proposition en début de cette séance publique. D'abord, l'approbation de la convention d'objectifs et attribution d'une subvention à l'Union des professionnels du nautisme. Il s'agit que nous délibérions maintenant afin de pouvoir attribuer à l'Association des professionnels du nautisme une subvention de 63 500 euros en prévision de l'organisation du Salon Nautique qui interviendra du 29 octobre au 2 novembre 2025.
Voilà, et cette, avec la convention d'objectifs d'ailleurs qui est annexée afin que vous puissiez toutes et tous en prendre connaissance. La somme de 63 500 euros est imputée sur le budget M4 de la régie des ports. Cela appelle-t-il des questions ? Monsieur Dumont.
Vous comprendrez que je n'ai pas pu lire la convention,
oui.
Mais l'exposé me pose un souci.
Oui.
Je vois d'attribuer une subvention, peu importe le montant, pour l'organisation du salon, ok, et de contribuer aux dépenses nécessaires à l'organisation de cet événement. Alors, je ne sais pas à quoi sert la subvention, si elle ne sert pas à payer les dépenses nécessaires. Et je ne sais pas quel est l'engagement de la commune par rapport à ce
voilà, sujet-là. Vous êtes tatillon, monsieur Dumont. En fait, c'est l'organisateur n'est pas la ville. L'organisateur est l'association des professionnels du nautisme.
Oui, oui. Mais la subvention, je suppose qu'elle sert à financer
oui.
l'événement.
Exclusivement.
Voilà. Et de contribuer aux dépenses nécessaires, donc c'est la commune ou c'est l'association qui va financer les...
Non, c'est l'association.
Non, mais,
c'est l'association, monsieur.
Ah, mais alors, non, mais alors, j'ai pas trop mal lu, c'est tout à fait possible.
C'est l'association. En fait, le salon nautique est depuis qu'il a été créé, organisé par l'association des professionnels du nautisme, donc
et
qui est présidé.
Il est proposé au conseil municipal d'attribuer, ok,
ouais.
de contribuer aux dépenses nécessaires. Donc, ça, pour moi, c'est la commune qui.
Oui, mais si vous voulez qu'on enlève, on peut enlever. De toute façon, on prend pas de dépenses en direct.
Non.
Bon, on peut enlever la ligne, si vous voulez,
voilà,
pour
voilà.
que ça lève toute ambiguïté.
Okay.
C'est d'attribuer une subvention d'un montant de 63.
Okay.
Parce que de toute façon, ces 63 500 euros sont exclusifs de toute autre aide. Donc, on attribue cette aide comme elle était octroyée auparavant par la SODEAL, sauf que maintenant, c'est sur le budget M4 du port. Que cette dépense est imputée.
Ok, donc on supprime la ligne contribuée.
Ouais. Pas de problème.
Ok.
Pas de problème. Parfois, moins on en écrit, plus c'est clair. Hein? Ok. Tout à l'heure, c'était sur un sujet qui concernait l'EPF, donc vous comprendrez que je ne peux pas modifier des termes d'une délibération qui engage un partenaire. Là, en l'occurrence, si ça vous paraît plus clair... Je n'y vois aucune objection. Donc, je propose aux voix la délibération modifiée, supprimant le deuxième alinéa de contribuer aux dépenses nécessaires à l'organisation de cet événement. Maintenant, évidemment, le premier qui est plus important, d'attribuer une subvention d'un montant de 63 500 euros à l'APN, domicile à la zone technique du Cap d'Agde, pour l'organisation du salon nautique du Cap d'Agde, qui se déroulera du 29 octobre au 2 novembre 2025. Voilà, ce qui est parfaitement clair. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Enfin, dernière délibération, il s'agit de la nomination d'un directeur par intérim de la régie des ports. Alors ça, c'est à ma demande. J'ai souhaité que, suite à la délibération que nous avions prise la dernière fois, qui avait d'ailleurs suscité quelques échanges dans le cadre desquels on vous avait répondu, on vous avait dit, voilà, l'intérim sera assuré par Monsieur Yvin, directeur général des services. Et ce que j'ai voulu qu'il soit mentionné dans la délibération qui vous est présentée, c'est justement le nom de Monsieur Yvin. Je veux sécuriser la procédure juridique et indiquer aussi noir sur blanc qu'il n'y a pas de cumul d'emploi, il n'y a pas de cumul de rémunération. C'est dans le cadre de ses fonctions qu'il va assurer l'intérim sans qu'il ne lui soit octroyé une quelconque indemnité. Voilà, donc tout simplement, c'est vraiment pour bétonner et pour sécuriser la procédure et qu'elle ne permettent pas d'interprétation désagréable. Voilà. Madame Varesano, bien
oui,
sûr.
Oui, je suis surprise. Alors, je me trompe certainement,
oui.
mais j'ai vu un arrêté municipal en date du 26 mai. Voilà. Donc, si vous pouvez me porter une explication, parce que sur cet arrêté, je peux lire « Monsieur Yannick Yvin, DGS de la ville d'Agde, est nommé directeur des ports d'Agde par intérim ».
Oui. C'est pour ça que je souhaite que nous prenions une délibération en conseil municipal pour officialiser et clarifier ce fait dont on a parlé la dernière fois. Mais je souhaite qu'on délibère pour que tout soit absolument transparent. Alors, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais le fait est que Monsieur Yvin assurera pour l'intérim, à ma demande, la direction des ports. Et je souhaite que ce soit mentionné dans la délibération parce qu'il convient que je le nomme.
Voilà, donc, et je préfère que ce soit par le biais d'une délibération. Et je souhaite aussi qu'il soit mentionné pour éviter toute interprétation décalée qu'il n'y a pas de complément de rémunération.
Donc, Monsieur Yvin est aujourd'hui DGS,
oui.
Directeur de la régie,
oui.
Et directeur des ports. Non.
Non, c'est la même, c'est la même chose.
C'est la même chose.
C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose.
D'accord. Et donc, est-ce que nous connaissons par intérim un délai approximatif du terme intérim ?
Eh bien, après, il y a l'appel à candidature.
Que vous envisagez de faire ?
Oui, oui.
D'accord. Non, mais je vous pose la question.
Oui, oui.
D'accord.
Donc après, voilà, c'est la procédure normale.
Merci.
Mais j'ai souhaité que nous passions ici, voilà, pour éviter... voilà, des propos qui pourraient entacher et la régularité et aussi l'honneur que nous avons tous à cœur de préserver. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de complément de rémunération et que les choses doivent être écrites pour être bien comprises. C'est bon ? Je peux mettre aux voix. Y a-t-il d'autres questions avant ? Donc je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Donc c'est approuvé, moins 5 voix. Je vous remercie. Il n'y aura pas de séance publique du Conseil municipal dans le courant du mois d'août. Nous nous retrouverons en d'autres occasions durant cette période estivale. Je n'ose pas vous souhaiter de bonnes vacances puisque nous sommes tous au service de celles et ceux qui peuvent en prendre, mais je vous souhaite un bel été. Merci.